France Maghreb 2.
Le Grand Forum en édition spéciale en ce mardi 5 novembre, en édition spéciale Afrique. Avec à la une, peut-on considérer la présence de la Chine en Afrique comme une nouvelle forme de néocolonialisme? On en reparle dans un instant. Faut-il, comme le demandent beaucoup d'Africains, et notamment un collectif d'artistes qui s'était réuni en 2017, en finir avec le franc CFA? Et nous terminerons sur une note quelque peu positive pour illustrer et donner quelques exemples des pays en voie de développement. Et il y a des surprises. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Pour en parler aujourd'hui dans cette édition spéciale, invité Ousmane Tibera, Rudy Casbi, qui est un journaliste spécialisé sur le continent africain, également Rudy Kazi qui sera de la partie, et à 17h, Maître Hakim Chergui pour nous parler de cette affaire, de l'affaire Zogo, cet homme qui avait dénoncé la corruption au Cameroun. Une nouvelle action judiciaire est prévue, nous ferons le point tout à l'heure à 17h. C'est parti pour cette édition spéciale du LGF jusqu'à 18h.
16h-18h, le Grand Forum sur France Maghreb 2, 16h-18h, avec Christophe Fro.
Le Grand Forum en édition spéciale aujourd'hui, avec un plateau plus que bien garni, avec de vrais spécialistes en la matière, pour parler de ce beau continent qu'est l'Afrique. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'Afrique aujourd'hui. Ousmane Tibera, bonjour Ousmane.
Bonjour tout le monde.
Ravi de te retrouver. Ce n'est un secret pour personne que maintenant l'Afrique... tu y habites ?
Oui, j'y habite beaucoup plus que je n'habite en France. Entre la France et l'Afrique, Dakar, Bamako, Paris.
Ouais, Paris, voilà.
Bruxelles, c'est... quelquefois aussi.
L'ambiance est un peu plus agréable du côté de Dakar et Bamako ?
Bah écoutez, vu ce qui se passe en ce moment en France, il fait plus chaud effectivement en Afrique. En tout cas, nous regardons avec beaucoup d'inquiétude... le débat raciste et islamophobe qui a lieu en ce moment
qui se propage.
Et de là-bas, franchement, on regarde tous la France bizarrement. Les gens me regardent, ils disent, mais dans les ambassades ou ailleurs, hein, ils me disent, mais alors c'est comment la France en ce moment, qu'est-ce qui se passe?
Ouais. Alors c'est vrai qu'à chaque jour on repousse les limites, hein. Aujourd'hui vous avez Zineb Razoui qui propose, elle, de tirer à balles réelles sur les jeunes de banlieue, les jeunes de racailles et de barbares, hein, qu'elle a qualifié ce matin sur CNews au calme.
Ah, ça rappelle un peu Ferry,
Luc Ferry,
les jeunes, il y a quelques mois aussi.
Oui.
Mais il était revenu sur ses propos, on verra si Zineb en fait de même.
Monsieur Rudy Kazi, donc, vous avez reconnu, bonjour Rudy.
Bonjour, bonjour à toi Christophe.
Vice-président des Forces Républicaines.
Ouais,
et un autre Rudy, mais Rudy Casbi cette fois-ci, journaliste.
Ne confondons pas.
Voilà, Rudy Casbi, bonjour.
Bonjour, écoute. Fondateur de WIP La Nouvelle Afrique.
Voilà. Voilà, créateur de médias et journaliste spécialisé sur le continent africain.
Également.
Voilà, également. Bah justement, c'est à ce titre que vous êtes là et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Nous serons avec Maître Hakim Chergui tout à l'heure pour parler d'une affaire, messieurs. Vous avez peut-être entendu parler de l'affaire Zogo au Cameroun, cet homme qui a dénoncé la corruption et qui s'est retrouvé en prison au HEPS. Ça fait un petit moment que ça dure. Et il y a des nouvelles infos par rapport à cette affaire que suit donc l'avocat Hakim Chergui, qui sera avec nous dans quelques minutes. Pour l'heure, on va s'intéresser à l'Afrique en trois volets. Tout d'abord, tout à l'heure, on s'intéressera des pays en voie de développement ou en émergence, comme l'a proposé Monsieur Casbi. Et il y en a quelques-uns, c'est intéressant de les mettre en lumière. On s'intéressera à cette monnaie, la France CFA. Faut-il en finir? C'est ce qu'avaient proposé d'ailleurs beaucoup d'artistes. Ils étaient réunis, ils avaient même fait un titre d'ailleurs pour dénoncer cette monnaie. Mais pour commencer, on va s'intéresser, si vous le voulez bien, à ce qu'on pourrait peut-être appeler, beaucoup en tout cas l'appellent ainsi, de l'ingérence des pays occidentaux. Alors aujourd'hui, on va dire quand même qu'il y a trois pays qui se disputent des contrats en Afrique, la France, la Chine et la Russie. La Chine qui a changé un peu de stratégie depuis 1978, s'est ouverte un petit peu au monde. Elle est très protectrice quand il s'agit de chez elle, mais quand il s'agit d'aller faire des marchés, en particulier en Afrique, elle devient de plus en plus gourmande et elle gratte de plus en plus de marchés, notamment à la France, Monsieur Casbi.
À la France, j'ai envie de vous dire que dans le cadre des nouvelles routes de la soie, Pékin a une grille de lecture. Mais par contre, vous disiez quelque chose qu'avec trois pays. Non, il y en a plus que ça. Il y a l'Inde en Afrique de l'Est.
Ouais.
Il y a les Émirats Arabes Unis par le biais de financement. Vous avez la Turquie dans
mais
le BTP.
C'est aussi la présence militaire aussi.
Une présence militaire qui devrait arriver. Mais l'Inde, par exemple, dans tout ce qui est manufacturier, dans toute l'Afrique de l'Est, la diaspora indienne sont extrêmement présentes, à tel point que le président du Kenya, M. Uhuru Kenyatta, a déclaré la diaspora indo-pakistanaise comme la 43e tribu du pays. Donc là, on parle pas de, et puis vous oubliez les Libanais aussi, qui sont implantés en Afrique de l'Ouest, historiquement, depuis longtemps.
Ouais.
Donc faut pas oublier tous ces gens-là.
Alors, quand je parlais de ces trois pays en particulier, c'est vrai que ce sont les puissances, voilà.
Et je parle en termes de nouveautés.
Voilà. La France a quand même bien gratté, hein, là. On parle bien de la France-Afrique, a quand même bien gratté sur le continent africain. Elle continue d'ailleurs, mais elle a perdu pas mal de marchés. La Chine a gratté pas mal, la Russie aussi. Donc ces trois pays, vous avez raison, Monsieur Casby, de signaler qu'il y en a d'autres, hein, qui arrivent petit à petit, qui grattent. Mais les trois pays que j'ai cités, ce sont ces trois pays qui ont, je pense en tout cas, le plus de marchés.
Ouais,
peut-être pas le plus de marchés, mais qui sont les plus offensifs.
Voilà.
Les plus offensifs en termes de conquête, parce que justement, ils sont en plein redéploiement au niveau de la conquête des marchés. Et puis l'Afrique reste encore le continent où on peut encore se faire beaucoup de marge en termes de bénéfices. La croissance, les prévisions de croissance sont assez importantes, même si cela ne veut pas dire que cette croissance peut bénéficier ou bénéficiera forcément aux populations.
Mais ce qu'il y a de très intéressant avec le prisme de votre question, c'est qu'on, c'est encore l'Afrique par rapport au reste du monde. Moi, je vois des puissances africaines émerger en Afrique.
Oui.
Le troisième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire, c'est le Maroc.
Oui.
Le premier gendarme d'Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria. Vous voyez ce que je veux dire?
Il y a un problème au milieu de ça, c'est que en fait, ça reste quand même assez sporadique en réalité, parce que les pays africains entre eux ont quand même encore du mal en fait à se faire confiance, mais surtout sur le volet économique, parce qu'ils sont pas sûrs des capacités de remboursement des pays en face. Et c'est un peu justement le problème, c'est ce qui permet en fait à la Chine de pouvoir s'imposer en Afrique. Et si on veut restituer un petit peu cette proximité avec l'Afrique, ça remonte quand même à 1955. Si on reprend le sommet de Bundang, où 29 pays africains et Asie avaient accouché effectivement de deux leitmotivs en fait qui étaient censés les lier, à savoir travailler en fait à imposer en fait les pays, comme on disait à l'époque, du tiers monde à l'international, et surtout d'avoir une coopération hyper soudée entre les pays africains et l'Asie. Le problème, c'est que ça s'est pérennisé avec le temps, avec en 1971, donc il y avait la reconnaissance de l'ONU en fait, de la République populaire de Chine, soutenu par 26 pays africains, et qui depuis n'a pas cessé en fait d'augmenter jusqu'à en date le Burkina Faso, qui a rejoint maintenant 53 pays qui soutiennent la République populaire de Chine. Donc il y a en fait ce lien en fait quasi presque ancestral qui permet en fait à la Chine d'être en place. Et la Chine prête à l'Afrique à des taux beaucoup plus beaucoup moins forts que par exemple que la Banque mondiale, c'est ce qui lui permet donc de s'installer. Et en plus de ça, elle offre des possibilités de remboursement directement en troc, on va dire, en fait, en matière première, pour permettre donc à ces pays de pouvoir continuer en fait à bénéficier des infrastructures chinoises. Le problème, c'est que ça crée une dépendance, parce que beaucoup de pays africains commencent maintenant à devenir endettés auprès de la Chine. Beaucoup de pays, c'est le cas par exemple du Kenya par exemple, et de beaucoup d'autres pays, et c'est ce qui est dommageable aujourd'hui, c'est que on n'a pas effectivement le passé avec la Chine qu'on a eu par exemple en Afrique avec l'Europe, un passé colonial, etc. Mais petit à petit, on sent en fait que la destinée en fait économique des pays africains commence un peu à leur échapper du fait de cette dette et des présences militaires qui commencent aussi à arriver en Afrique, notamment à Djibouti.
Rudy Casby là-dessus, c'est très intéressant ce que
là,
dit.
C'était Rudy Casby qui parlait.
Rudy Casby, oui. Rudy Casby maintenant sur ce que dit Rudy justement. Mais vous avez raison aussi, Monsieur Casby, de signaler qu'il y a des pays qui commence aussi à se faire remarquer, tel que le Maroc, qui a décidé lui d'investir en Afrique, économiquement
mais,
en tout cas.
Mais parlons même de l'Afrique du Sud.
Ouais.
Aujourd'hui, vous pouvez trouver des stands MTN partout sur tout le continent, toute la téléphonie mobile, quasiment tous les réseaux, c'est MTN. Je vais pas la citer 15 fois la marque, on la consomme pas ici.
Ouais, je connais bien MTN parce que
ils sont partout.
Quand je travaillais dans la formation professionnelle, c'était un de nos clients, mais ils sont pas très bien, ils s'imposent pas dans les pays francophones. Par exemple.
Vous rigolez.
Le Orange reste encore dedans.
Non, mais vous rigolez.
Orange
est numéro 3. Derrière Vodafone et derrière MTN en termes de part de marché aujourd'hui.
Du continent africain.
De tout, même les pays francophones. Orange, Niger vient de claquer la porte.
Bah, le Niger, le premier au Cameroun, en Côte d'Ivoire.
Ah non, Côte d'Ivoire, je vous le donne les chiffres parce qu'on les a, parce que je suis partenaire avec Siomag, je peux vous le dire. MTN est loin devant Orange. à Abidjan, la Sonatel est très très loin derrière.
On vérifiera les chiffres. Après, tant mieux, hein, si c'est le
vous
cas.
Vous pouvez le vérifier, bien sûr. MTN est le roi de la téléphonie mobile dans les réseaux en Afrique.
Il y a un autre problème, c'est que le réseau de la après, c'est une aparté, mais le réseau de la téléphonie mobile en Afrique, principalement, Orange n'a pas que les marchés commerciaux, ils ont aussi les marchés du développement des infrastructures téléphoniques en Afrique. Je veux dire, les techniciens qui sont souvent employés pour travailler sur les lignes téléphoniques africaines, ça reste France Télécom en gros, quoi.
Et vous avez remarqué quelque chose dans les ressources humaines?
Dites-nous.
Par exemple, à l'époque, on avait un président qui s'appelait. On assiste à ce qu'on a. Avant, il y avait un phénomène, par exemple, en Côte d'Ivoire, Henri Colombédier disait qu'il fallait une africanisation des cadres.
Oui.
Il fallait une africanisation des cadres. Et ce qu'il s'est passé, c'est
joli,
que.
Joli votre musique, hein, ça va.
Oui, là en direct. Une africanisation des cadres. Et ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'il y a eu toute une révolte là-dessus. Mais aujourd'hui, vous prenez Orange, il n'y a plus, pardonnez-moi l'expression familière, de Charles-Henri qui arrive de France et qui, on dit, on va travailler en Côte d'Ivoire. Cette période des expatriés, elle est révolue. Mais non, aujourd'hui, bon, on essaye de travailler avec des gars d'ici, je vais être encore très caricatural, Mamadou, qu'on lui donne un bac plus 5, qu'on le forme, on lui dit, est-ce que tu veux retourner au pays, etc. Mais aujourd'hui, maintenant, on est dans une africanisation des cadres. Même aujourd'hui, vous êtes dans un pays comme la RD Congo, ou même la Zambie, que je connais bien aussi, ou le Ghana. Maintenant, on demande aux gens de pas prendre forcément des retours des enfants de la diaspora. On veut former des enfants tout de suite.
Ça évolue, mais après, c'est très bien. Mais ça reste encore, c'est pas encore très manifeste en Afrique, hein.
La question qui se pose, c'est, l'africanisation du personnel engage-t-il le changement du système d'exploitation des populations?
Voilà.
Parce que c'est un peu dans le cadre du franc CFA, par exemple, quand ils se sont rendus compte après les années, notamment à partir des années 80, surtout dans les années 70, quand un certain nombre de présidents de République, en tout cas dans la France-Afrique, ont désiré avoir des cadres africains, bon, on a fait en sorte que les banques centrales soient africanisées, qu'il y ait un personnel africain, qu'il y ait les sièges qui se détachent de la France et qui soient établis dans les différentes capitales d'Afrique de l'Ouest. Mais le système n'a pas changé. Ça, c'est un premier élément. Donc,
d'autant plus qu'il y a toujours des administrateurs de la.
Voilà, je veux dire, à un moment donné,
français dans les banques centrales.
Ça, c'est un exemple. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a un gros problème. En tout cas, je parle de ce que je connais en Afrique de l'Ouest. Hein, c'est plus là mon domaine d'expertise. C'est que la transformation du système, quelquefois, n'est que, au fond, une forme de transformation de la couleur de peau, et non pas le changement du système en tant que tel. Il n'y a pas de remise en cause du système capitaliste, néolibéral, d'affaiblissement des États ou d'exploitation des populations, soit par le marché, aujourd'hui avec la libéralisation, ou soit avec le tout État, quand c'était ça qui était.
Il y a du capitalisme en Afrique ?
Oui, il y a du capitalisme.
Où ?
Il n'y a pas du capitalisme interne, mais il y a un système capitaliste externe qui exploite les populations. Et aujourd'hui, quand vous parlez, par exemple, de la téléphonie, quand on parle d'Orange, notamment au Sénégal ou au Mali, ou quand on parle à un moment donné de l'exploitation du cacao ou de l'or ou du pétrole avec ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, les bénéficiaires majoritaires de ces denrées et de ces matières premières ne sont pas des Africains d'une part, et d'autre part on fait en sorte de ne pas avoir de politique d'industrialisation qui permette de transformer les dites matières premières sur place et de pouvoir les revendre à des prix beaucoup plus intéressants. Donc aujourd'hui, face à cette absence de politique d'industrialisation et de stratégie de construction à partir de ses propres besoins, eh bien nous sommes en train de juste changer de maître. Nous avions des maîtres blancs européens, nous sommes aujourd'hui à la recherche d'autres maîtres, et nous applaudissons les Russes, les Chinois. Demain, ce seront aussi d'autres types peut-être d'empires. Si les Africains eux-mêmes ne s'en pensent pas à partir de leurs propres besoins, ne s'unissent pas et n'établissent pas des rapports de force avec l'extérieur, ils continueront à être exploités.
Et vous en pensez quoi du maître nigérian, du maître ghanéen, du maître éthiopien?
C'est intéressant, mais l'Éthiopie. C'est intéressant. On pourrait parler aussi du Rwanda, mais même l'Éthiopie. On parle effectivement
du maître mauritanien.
Attendez, je vais parler déjà de l'Éthiopie. Mais parlons par exemple de l'Éthiopie qu'on met en exergue en termes d'exemple.
Oui.
C'est au prix d'une exploitation monstrueuse de la population.
Non mais attendez, je suis allé en Éthiopie, monsieur, je peux pas vous laisser dire ça.
Ben moi je le dis.
Non mais bien sûr,
vous allez le dire.
Vous
avez le droit de le dire.
Je suis allé en Éthiopie, je peux pas vous laisser dire ça.
Oui, bien sûr, vous avez
un pays.
Vous avez le droit de.
Laissez-moi
terminer. Allez-y. Vous avez le droit de partir. La question c'est pas que vous soyez parti. La question c'est d'analyser ce qui se passe.
D'observer et de vivre la manière éthiopienne. Donc je peux vous raconter.
Oui, mais ce que je veux dire par là, moi aussi, je peux dire que je suis au Mali, je peux dire que je suis allé au Sénégal. La question elle est pas d'être parti. La question c'est de quelle manière est-ce que les 10 pays sont en train d'être, comment dire, d'être d'avoir leur croissance. Est-ce que c'est une croissance qui bénéficie à la population? Est-ce que c'est une croissance est-ce que c'est une amélioration des conditions de vie? Est-ce que c'est une continuité d'une autre forme d'exploitation où les gens sont traités comme des esclaves dans les différentes usines, notamment
attendez,
en Éthiopie? C'est la question que je pose.
Nous parlons d'un pays dont on disait il y a 30 ans qu'il allait crever de faim, je vous assure, aller sur YouTube, taper des chansons. On parle de ce pays.
Oui.
On parle d'un pays où on est à chaque fois au bord d'une implosion civile entre Oromo, Afar, Somalie.
D'accord.
Vous voyez, on en est là dans ce pays. Et le fait est, justement, je vais vous raconter une anecdote. Vous savez quoi? Parce que, comme on est entre nous avec tous les auditeurs, moi, je remercierai jamais assez l'Éthiopie d'avoir fait l'homme que je suis. Oui, vous savez pourquoi? Parce que lorsque j'ai grandi dans ce beau pays en France,
vous avez beaucoup d'objectivité.
Mais c'est mon vécu. Donc, parce qu'en Éthiopie, j'essaie de comprendre l'esprit de résilience des Éthiopiens. Y a plein de problèmes en Éthiopie, hein, d'accord?
Comme partout.
Énormément de problèmes. Mais je peux vous dire que l'Éthiopie a fait en partie de moi ce que je suis aujourd'hui.
Mais il faut rentrer dans le détail maintenant.
Je vais vous raconter. Ma mère, il y a un an auparavant, je partais aux États-Unis. Ma mère me regardait en disant, super, mon fils, il va réussir, etc., etc. Je suis revenu en France. Trois jours avant mon retour en France, je me suis dit, est-ce que je vais pas rester aux États-Unis finalement? Je suis quand même revenu. Et j'ai dit, mon rêve serait africain. Je suis allé au Kenya et en Éthiopie. Et il m'est arrivé un problème à un moment donné, c'est que il me restait plus que 40 euros pour faire à peu près 3 semaines en Éthiopie. Les Éthiopiens, s'ils m'avaient pas appris à créer de la valeur ajoutée, à entreprendre, à me débrouiller par moi-même, à comprendre cet esprit de résilience que face aux situations, on en serait, j'aurais pas été l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand vous dites, oui, mais dans quelle manière ils sont exploités, moi, faut retourner votre question. Parce que quand on vient d'un pays où on apprend aux gens où il n'y a pas de matière première en Éthiopie, il n'y a aucune matière première. L'Éthiopie ne produit que des fleurs. Vous savez ce que c'est? Vous voulez que, on parle d'un baril de pétrole. Écoutez. Ils ne produisent que des fleurs. Donc, ils sont obligés d'être compétitifs dans un marché et d'apprendre à leurs enfants à comment créer de la valeur ajoutée avec rien. Vous savez ce qu'on apprend dans un incubateur en Éthiopie d'entreprise? On apprend à un gamin, à partir de 1 BR, c'est la monnaie locale, à essayer de faire en sorte comment ça peut valoir 2 ou 3 BR. À partir de pas grand chose.
Oui.
Parce qu'il n'y a pas de matière première.
La question ne se pose pas ainsi.
Bah, si, elle se pose ainsi.
Quand je parle comme ça,
laissez-moi terminer. Parce qu'on pourrait faire, on pourrait tous dire la même chose. Moi, je pourrais vous parler
du
Sénégal.
C'est pas le cas par cas.
Et de ce que ma communauté Sonika fait de moi, la question, elle est pas là.
Ne parlons pas d'exploitation dans un pays où on se demandait si on allait manger.
Laissez-moi terminer. C'est pas parce que les exploités d'hier qui avaient faim n'ont plus faim aujourd'hui que nous n'avons pas le droit de questionner le système qui est mis en place et le type de croissance qui est mis en place. Il faut questionner. Ça, c'est un premier élément. Ça ne veut pas dire qu'on renie l'effort des Africains, en l'occurrence ici les Éthiopiens, qu'ils ont mené pour les mener à là où ils sont aujourd'hui. Et j'espère qu'ils partiront beaucoup plus loin. Mais pour aller beaucoup plus loin, il faut questionner ce qui se passe aujourd'hui. Et je parle de l'Afrique de manière générale. Et les cas que nous prenons, ce sont juste des cas d'illustration. Est-ce qu'aujourd'hui l'Éthiopie ou le Sénégal ou le Mali, qui est dans une situation catastrophique avec 53 morts dernièrement.
Ouais,
est-ce que la plupart des pays aujourd'hui en Afrique et l'Afrique en tant que continent sont des pays souverains? Non.
Voilà, la question
est posée.
Est-ce qu'ils ont
les possibilités aujourd'hui de décider de leur politique économique et d'avoir des rapports win-win, comme diraient les autres, en tout cas des rapports de force à leur avantage avec les gros mastodontes que sont la Chine, la Russie, l'Inde et autres, à l'heure aujourd'hui des empires? Est-il possible que des petits pays, 52 pays, pour un continent
qui a construit la plus grande zone de libre-échange économique du monde, la ZEC.
Ah mais non, mais laissez-moi terminer. Libre-échange, ce sont des mots. La question, c'est de savoir est-ce qu'ils ont les moyens aujourd'hui de leur souveraineté politique. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons les moyens d'exploiter nous-mêmes nos ressources premières, nos matières premières, de les transformer sur place et d'en faire bénéficier nos populations et le reste de l'humanité? Non. Voilà le fond de la pensée. Tout le reste. Bon bah c'est que des miettes qu'on nous envoie pour bien manger.
Rudy Casbi, oui. En écoutant effectivement ce débat très intéressant, ces échanges entre Rudy Casbi et Monsieur Ousmane Timéra, et on sent en tout cas que vous avez cet amour pour ce bon continent qu'est l'Afrique, tous les trois d'ailleurs. Rudy.
Lequel?
Oui. Rudy Casbi. Rudy Casbi.
Attention les erreurs prononciation, ça peut valoir très cher là.
Non, absolument, absolument. En tout cas voilà, on est là pour échanger, débattre. Bien entendu, et essayer de comprendre ce qui se passe sur ce bon continent, parce que c'est vrai, quand je vous écoute, quand j'écoute Ousmane, quand j'écoute Rudy, mais
Casbi,
quand j'écoute effectivement vos échanges, je me dis, mais ce continent, s'il n'y avait pas tous ces mangeurs, ces croqueurs, qui depuis des années sont là à s'arracher les matières premières, les marchés économiques, etc., l'Afrique, la population africaine pourrait jouir de tout ça, et elle n'en serait pas où elle en est aujourd'hui, Rudy Casbi.
Le problème en fait, c'est que aujourd'hui la difficulté en fait du développement économique en fait de la plupart des pays africains repose déjà d'une part sur un manque de volonté politique, on va dire en fait une malgérance des politiques des chefs d'État actuels, avec
appuyé par les pays occidentaux aussi, non?
Oui, et surtout on peut dire qu'il y a un tropisme de ce côté-là, du côté de l'Afrique francophone. Et je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des initiatives qui sont importantes. Je suis pas en train de dire qu'il y a des pays qui s'en sortent. Le Sénégal est en train de monter, etc. Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que à l'heure actuelle, les chefs d'État africains n'aident pas forcément les pays à se développer. Je prends l'Afrique dans la globalité. Je ne fais pas encore du cas par cas. Le problème, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas, comme ça a été dit tout à l'heure, la capacité de décider de leur propre politique commerciale, mais aussi vis-à-vis, par exemple, de la France, il y a encore une indépendance sur le plan économique à prendre. Et effectivement, ça nous ramène effectivement sur la réalité du franc CFA. La question. On en parlera tout à l'heure. Effectivement, il y a une urgence à en sortir, mais pas uniquement pas. Pour pouvoir retrouver de la souveraineté, il y a une urgence à en sortir déjà aussi pour pouvoir retrouver de vraies capacités en fait à pouvoir développer le pays, enfin les pays. Mais le problème, c'est que même si on retrouve une souveraineté monétaire, s'il n'y a pas d'une part de structure juridique pour pouvoir accompagner le développement de ces pays, on va patauger. S'il n'y a pas de réelle volonté politique, parce que la stabilité politique questionne aussi ces réalités. Dans un pays par exemple où il y a avoir beaucoup d'instabilité politique, il n'y aura pas de développement économique. Et si en plus de ça, les politiques qui sont en place n'ont pas de vision de développement et sur le plan économique, mais aussi sur le plan culturel et de l'éducation, on va aller droit dans le mur. Je rappelle qu'en 2050, l'Afrique sera le continent le plus peuplé, avec la jeunesse la plus importante. Si on veut aller en 2050 avec une jeunesse qui sera la plus importante au monde en termes démographiques, avec des sous-qualifications, on va droit dans le mur. Et je trouve qu'en fait qu'il y a beaucoup en fait de mythes et d'excitation autour de la croissance africaine, mais on se pose pas la question effectivement de l'éducation dans le pays, parce que là encore c'est à vitesse variante en fonction de pays. Il y a des pays qui développent des universités, il y en a d'autres qui font rien du tout. Si on prend le cas du Congo-Brazzaville, je peux vous dire que c'est un peu le bordel. Donc, on va droit dans le mur. Et si en plus il n'y a pas de volonté politique pour pouvoir décider de nouvelles politiques économiques et en plus de mettre en place un système juridique qui permet, par exemple, je prends l'exemple aux États-Unis. Vous prenez 90% des créations de sociétés sont permis par l'accession en fait à la propriété. Ça veut dire que les gens font des hypothèques et puis après ils investissent. En Afrique, il n'y a même pas de quoi pouvoir. Il n'y a pas de structure juridique qui permette de se dire que bon, moi je veux peut-être vendre tel ou tel bien pour pouvoir investir dans la création d'une entreprise. Tout se fait en dehors en fait du système juridique, on va dire extra-juridique. 70% des entreprises se font comme ça. Donc il peut pas y avoir de développement économique s'il n'y a pas de structure stable.
Qu'est-ce que vous pensez de cette lecture, monsieur Rudy Casbi? Parce que il faut dire aussi quand même qu'il y a eu pas mal d'argent d'injecter aussi pour aider et venir en aide à la population africaine. Sauf que l'argent n'a jamais été...
Ah bon
Il y en a eu quelques, oui, quelques opérations.
Oui, il y a eu des plans.
On en parlera tout à l'heure.
Oui, bah, d'accord, mais il y a eu des plans. Il se trouve que l'argent va dans les poches principalement du président en question, et puis bah, il n'en fait jamais bénéficier sa population. Ça c'est des exemples qui sont quand même importants en Afrique, Rudy Casbi.
Moi, j'ai envie de regarder la situation telle qu'elle est.
C'est ce qu'on essaye de faire.
Hein. On regarde ici, nous sommes ici en France, et nous disons, avec une meilleure répartition des richesses, etc., etc., etc. Ce qui n'est pas faux. Dites-moi, un seul pays dans le monde, même la Chine inclus, on ne penserait pas comme ça.
C'est-à-dire ?
Dites-moi si vous avez un pays dans le monde, aujourd'hui, où on ne tient pas le discours de « oui, mais avec une meilleure répartition des richesses, certains problèmes seraient évités, l'occupation politique, les réseaux. » Tous les pays du monde, même aux États-Unis, actuellement, ça fait débat. Il n'y a pas longtemps, on parle du franc CFA, je discutais avec un Canadien dans le métro, il m'a avoué que la monnaie du Canada n'était même pas faite au Canada.
Oui, mais c'est pas le problème.
Qu'elle était faite en Australie.
Non, non, non. C'est pas parce qu'il y a un problème général.
Non, mais le problème
à faire comme si c'était
le problème du français, c'est pas qu'il soit, pas fabriqué en Afrique.
On en parlera tout à l'heure.
Le problème, il me regarde, donc du coup, je réponds.
Je pose une question.
Le problème du franc CFA, c'est pas le fait qu'il soit frappé monnaie en France. Le français, le problème du franc CFA, c'est que 50% des richesses sont contenues dans les comptes de.
On en parlera tout à l'heure.
Non, mais ça, je suis d'accord.
Rosie Casbi, deuxième exemple.
Non, mais je suis d'accord.
Mais venez-en, en fait, on sait. Non,
mais je suis d'accord sur la question du franc CFA avec l'histoire d'approvisionnement des banques avec.
Voilà,
c'est un véritable problème.
Chose, merci.
Ça, effectivement, c'est un véritable problème. Mais je pense qu'aujourd'hui, la place de la diaspora, parce que nous constituons des diasporas, c'est essayer d'apporter des solutions concrètes à notre continent. Aujourd'hui, on a besoin de quoi ? On a besoin d'hommes et de femmes leaders. Pas forcément politiques, au sens politique du terme, ni au sens associatif ou militant du terme. Mais aussi, moi je vois... Chaque fois que je vais sur le terrain, je m'évertue à mettre en relief tous ces créateurs avec 0 €.
Il y en a beaucoup.
Et il y en a énormément.
Oui, ouais, ça on est d'accord.
Il y a un talent aujourd'hui. Vous parlez de capitalisme. Ça, je vous dis, est-ce que l'Afrique est capitaliste ? Je suis pas sûr. Elle invente un.
Moi, je crois pas.
Elle invente un nouveau modèle.
Mais je crois pas qu'elle invente quelque chose.
Moi, je crois que si.
D'accord.
Connaissez-vous un seul endroit dans le monde où on apprend à ces jeunes, où les mamans sont capables d'apprendre à leurs jeunes, de créer de la valeur ajoutée à partir de zéro ? Il n'y en a pas. Tous les systèmes ici en France, chaque entrepreneur dit « ma banque me prête pas, je ferme ». Aux États-Unis, on dit « on me prête pas, je ferme ». Il n'y a pas de levée de fonds, je ferme. Les seuls entrepreneurs du monde qui savent dire « je vais créer de la valeur ajoutée même à partir de rien », ce sont les Africains.
Oui, mais...
Et ça, c'est peut-être pas un bon modèle. Vous allez dire
peut-être...
Non,
moi je parle pas de modèle, hein.
Mais il est important.
Non, mais je pense qu'on se comprend pas en fait, parce que nous on parle des économies et vous parlez en fait
de la
manière dont la culture en fait permet
parce que la société civile
en fait,
parce
des
que
Africains.
Oui
mais
parce
ça
que,
suffit pas aujourd'hui pour développer que, les économies africaines.
Regardez qui est passé. Regardez dans les dernières élections en Afrique qui sont passées que mais, des membres de la société civile.
Mais je me permets de vous couper parce que
donc
vous
c'est
disiez,
la société civile qui
vous
aura.
Vous disiez Monsieur Casbit il y a quelques instants que si la banque ne vous prête pas d'argent on ferme.
Oui.
Bah si je passe pas la pub on ferme. Donc si vous voulez qu'on reste ouvert et qu'on poursuive le débat. On est de retour très vite avec Rudy Casbi, Ousmane Timéra, Rudy Kazi et on sera rejoint dans un instant par Hakim Chargui, le maître Hakim Chargui, qui va nous parler de cette histoire au Cameroun de cet homme, Monsieur Zogo, qui a dénoncé la corruption. Et ben, il est en prison. On y retrouve dans un instant sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum, la spéciale Afrique avec nos invités aujourd'hui. On est de retour dans le Grand Forum sur France Maghreb 2, pour cette édition spéciale consacrée à l'Afrique, avec nos invités Ousmane Timéra, qui est de passage à Paris, on en profite, et on remercie d'être là d'ailleurs avec nous.
Merci à vous.
Avec Rudy Kazi, qui est vice-président des forces républicaines, moi. Avec Rudy Casbi, journaliste et créateur de médias, journaliste spécialisé en Afrique. Et avant de recevoir Maître Chergui, quand même, messieurs, l'Afrique quand même regorge de choses absolument extraordinaires. Rudy Casbi tout à l'heure nous disait voilà, avec 0 € on peut faire des choses en Afrique et on le voit, mais est-ce qu'il y a vraiment une volonté, j'ai envie de dire, entre pays africains d'essayer de se débarrasser de tous ces pays qui sont venus manger, croquer depuis des années, qui ont colonisé ce continent entier, est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui de s'unir pour faire de ce continent une force absolument incroyable? Est-ce que c'est possible d'envisager ça? Je sais que c'est
Si tu permets, Christophe, moi déjà, avant de répondre à ta question directement, j'aimerais quand même parler de l'idée de si on regarde qu'il y ait un génie propre aux populations d'être créatifs, de créer de la valeur ajoutée entre guillemets avec ses propres mains. Oui, c'est un fait, c'est un acquis. Le génie humain fait que même un enfant arrive à fabriquer des choses parce qu'il est créatif. Mais aussi, on regarde en termes de société. L'être humain n'est pas un être qui peut vivre seul. Il a besoin des autres pour pouvoir se développer. C'est ainsi que la civilisation naît, c'est ainsi qu'on crée des richesses. L'argent et la monnaie, on va sans doute venir à la question du franc CFA, oui, est un instrument qui permet de soutenir ces différentes activités. Lorsque les États, la monnaie, l'argent, les richesses ne sont pas faites pour être réinvesties dans la société, et tout le peu de richesse qui est créé,
ça va où alors, du coup,
va dans les banques extérieures. Ouais. La monnaie franc CFA, par exemple, est une monnaie forte qui privilégie les investissements, les prédations de l'extérieur des richesses intérieures et l'importation ou l'exportation plutôt des richesses intérieures vers les banques extérieures. La monnaie telle qu'elle est construite dans nos pays, en tout cas ouest africains, vise cela. Ce qui fait que même quand des gens ont des super bonnes idées, ils n'ont pas les investissements qu'il faut, notamment au niveau du secteur public, ils n'ont pas les investissements qu'il faut, notamment du secteur privé, si ce n'est à des taux d'intérêt exorbitants, qui font qu'il n'y a personne, alors, avec toutes les bonnes volontés qu'il a, qui peut avoir des investissements ou des prêts bancaires qui leur permettent de faire décoller un peu leur entreprise.
Ben, je vais répondre.
Je vais répondre. Cette logique-là, les banques africaines sont gavées d'argent en réalité. Et je vais vous dire pourquoi. Ce sont que des banques de dépôt, empruntent peu sur le marché intérieur, quand elles le font à des taux exorbitants, mais par contre qui investissent beaucoup à l'extérieur. Elles prennent par exemple des prêts samouraï au Japon. Donc, les banques africaines, en réalité, contrairement à ce qu'on peut penser, dans leur globalité, ne manquent pas d'argent. Elles en sont même gavées. Elles ne leur investissent pas assez sur le marché, sur les marchés économiques domestiques. C'est ça aussi un vrai problème.
Mais le système est fait pour.
Je vais vous prendre l'exemple d'un pays qui s'appelle le Ghana. Il ne manque pas d'argent, il n'est pas dans la zone CFA. Je peux vous dire que tout le monde a un esprit entrepreneurial, mais je peux vous dire que c'est pas une banque au Ghana.
C'est pour ça que je parle de système. Je parle de système et d'une logique néolibérale qui privilégie le capital, qui privilégie d'abord le capital et les taux d'intérêt non d'intérêt que pour enrichir ceux qui ont du capital.
Mais par contre, je peux vous dire que si vous avez un compte en banque au Ghana, je peux vous dire que c'est 16% de taux d'intérêt pour vous.
Oui, il est rémunéré.
Donc c'est, si vous avez un compte courant, simplement.
Oui, 16%.
Oui, je vous le dis.
Oui, mais on rémunère ceux qui ont donc de l'argent au lieu d'investir dans la société, dans la population et dans l'économie réelle.
Mais ça, c'est
une financiarisation
et non
pas
un choix souverain du Ghana.
Non.
Et qui est amplement souverain. Allez, n'allez pas dire aux Ghanéens qu'ils sont soumis à la bonne
élection. Je le dis comme je le pense, le Ghana n'est pas souverain sur ces questions-là.
Moi, je vous le dis, le Ghana est très très souverain.
Surtout que tous les Ghanéens n'ont pas forcément un compte en banque.
Et la question, c'est pas la souveraineté. La question, c'est ce que nous faisons. C'est la politique économique qui est menée. Est-ce que la politique économique qui est menée permet l'industrialisation de nos pays, permet une meilleure... Je parle de l'Afrique de manière générale, et le Ghana, malgré tous les progrès qu'ils font et que j'encourage, j'ai vu notamment le discours du président ghanéen.
Moi, j'ai vu les actes, moi.
Moi,
j'ai vu les actes.
Et j'ai vu les études qui sont menées là-dedans. Je ne pense pas, à mes yeux, en tous les cas... qu'on puisse dire que le Ghana est en train de s'en sortir.
Ousmane, il y a un début.
Oui, j'encourage ce début.
Voilà.
Mais je parle de manière générale sur l'Afrique de façon beaucoup plus générale. L'exemple du Ghana devrait être suivi avec peut-être une invention de recettes, ou en tout cas d'une logique qui n'est pas néolibérale.
Non, mais je pense qu'il faut arrêter aussi de faire du cas par cas. C'est pas parce que le Ghana le fait bien que ça veut dire que l'Afrique le fait bien.
Ça peut être un bon exemple pour le Ghana quand même.
C'est un exemple à suivre, mais il faut pas faire du cas par cas, c'est-à-dire faire une généralité à partir du Ghana.
Le Ghana, on va pas faire une généralité non plus à partir du Congo Brazzaville.
Oui, mais qui a fait une généralité à partir du Congo Brazzaville?
Non, mais parce que je sais.
Moi, j'ai pas cité que le Congo Brazzaville.
Non, mais parce qu'il y a des Afriques,
je termine.
Des réalités, et on peut pas non plus dire que l'Afrique.
Le Ghana, bah oui, mais l'Afrique.
Vous avez raison. Non, les Afriques.
Il y a une
volonté politique, il y a un peuple derrière.
Mais pourquoi vous parlez du Ghana si vous dites les Afriques?
Parce que je distingue les États des organisations et même des peuples parfois des États. Parce que quand vous voyez.
Mais vous faites du particularisme et après vous dites les Afriques.
Parce que ça veut dire que quand il y a des volontés d'éducation dans un pays, en l'occurrence Jerry Rawlings et Kwame Nkrumah pour prendre l'exemple du Ghana, ou même Jonathan Goodluck au Nigeria, le peuple est capable de suivre et la société civile
bien
est
sûr,
capable
bien sûr.
Le peuple n'est pas capable
bien sûr, mais encore une fois, je suis d'accord avec vous. Vous prenez l'exemple du Ghana, on peut prendre l'exemple de l'Afrique du Sud, etc. Ok, bon, ou de l'Éthiopie, ok. Mais c'est pas les Afriques en général. Le problème dont on a parlé un petit peu, mais qu'il faut remettre sur la table, c'est que les développements en fait des pays sont liés pas uniquement à la souveraineté monétaire. Et ils sont liés à la volonté du développement économique, donc de l'investissement dans des infrastructures, l'investissement dans des industries. C'est ça en fait.
Et l'investissement dans l'éducation et le social.
Oui, parce qu'effectivement tout est lié. L'éducation va permettre effectivement de créer du personnel qualifié qui lui va se retrouver dans des industries à pouvoir booster effectivement la croissance et créer aussi au travers du pouvoir d'achat créer encore plus de croissance au travers de la consommation. Tout est lié. Effectivement. Sauf que le problème c'est qu'en Afrique, il n'y a pas de volonté d'investissement à l'intérieur des économies africaines.
Qui fait tout cela? Mettez un homme. Voilà. Ça s'appelle un homme.
Non, ça s'appelle
un peuple. Ça s'appelle un homme.
Ça s'appelle un peuple souverain. Et ça s'appelle un peuple souverain avec des leaders qui ont une stratégie.
Est-ce qu'on peut. Je suis d'accord.
C'est un homme qui consomme.
Juste, je termine parce que j'ai été coupé. Effectivement.
Ça arrive, c'est le principe du débat, mon cher.
Oui, ça m'arrive souvent, mais c'est pas grave. Moi, j'aime ça puisqu'on se renvoie la balle après.
Ouais, voilà.
Donc, mais effectivement.
Je vais la reprendre.
Et ces politiques sont décidées par des hommes qui doivent avoir en fait une volonté politique, mais le problème de l'Afrique aujourd'hui est une vision anthropologique, même si c'est ce qui a manqué, parce qu'au lendemain des indépendances, on s'est pas questionné sur la vision anthropologique de l'homme noir.
Est-ce que le continent africain est indépendant aujourd'hui, clairement? Oui ou non?
Il n'est pas indépendant.
Bah oui, elle est révélatrice, mais elle est claire.
Je te réponds. Non, il n'est pas indépendant parce que tous les chefs d'État africains, de manière générale, n'ont pas la volonté d'inscrire en fait leur pays dans un développement économique sur la durée. Si on prend le cas du Ghana, ou même par exemple de Kagame, ce sont des gens qui sont proactifs et qui souvent inscrivent le développement économique de leur pays.
Est-ce que le continent africain est indépendant?
Dans une forme entre guillemets de défiance de l'hégémonie européenne.
C'est un homme politique qui continue quoi qu'il arrive.
Ce que d'autres pays africains ne font pas. Au Ghana, ils le font. Au Rwanda,
Ils le font. Je vois même l'émergence d'une société civile au Sénégal. Il y en a marre.
C'est une question de malgérance politique.
Je vois en Mauritanie. C'est marrant. Il y a un pays qui a disparu du Sahel par la magie médiatique. C'est la Mauritanie. Pourtant, Dieu sait qu'on peut en parler extrêmement. Pourquoi on parle plus de la Mauritanie?
Pays esclavagiste.
Pourquoi on n'en parle plus?
Je sais pas, moi j'en parle, mais après je...
Pourquoi le Soudan avait disparu, le Sud-Soudan ont disparu?
Non mais là tu parles sur le plan médiatique.
Mais même dans le sens culturel, même contre nous on parle, regardez, Christophe, vous avez posé une question intéressante, est-ce que l'Afrique est indépendante?
Oui.
Est-ce que vous ne serez pas choqué si je vous dis, est-ce que l'Europe est indépendante? Ça n'existe pas.
Mais si, ça se dit.
Non.
L'Europe n'est pas indépendante.
Est-ce que la France est indépendante?
Non, je ne suis pas d'accord avec vous.
Parlons
de l'Europe. L'Europe n'est pas forcément indépendante,
Écoutez, cher Rudy, si vous permettez.
Pas l'Afrique est indépendante, parce qu'il y a les Africains.
Si vous permettez, cher Rudy.
Cher ami. Extrapoler comme ça.
Cher ami, si tu permets. Je pense qu'il faut être, comment dire, à l'ère de son temps.
Je suis à l'air de mon temps.
Dire que j'ai pas dit que c'était pas votre
et
cas.
Et toi également.
Je dis juste que aujourd'hui,
notre invité.
À l'heure des empires, États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Union européenne a bien compris qu'il fallait s'unir si on voulait résister à des gros mastodontes comme les États-Unis, comme la Russie. Est-ce qu'aujourd'hui
l'Union
nous pouvons
européenne
garder
et...
Pardon, laisse-moi finir, s'il te plaît. Est-ce qu'il est possible de continuer à penser en termes de d'État-nation comme l'État-nation Sénégal? Le Sénégal ne peut se développer si elle ne s'inscrit pas dans une stratégie sous-régionale de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Et l'Afrique de l'Ouest ne peut se développer si elle ne s'inscrit pas dans une logique beaucoup plus globale par rapport à d'autres. Donc, je suis d'accord avec vous qu'on peut prendre des petits exemples du Sénégal, du Ghana et autres, etc. Mais tous ces pays sont des petits face à l'Inde, face à la Russie, face aux États-Unis et face à l'Union européenne.
Du coup, ma question,
on est
alors,
des petits gars. On n'est pas indépendant. Parce que dès lors, il suffit de voir le nombre de guerres qui a lieu dans nos territoires. Le nombre d'armées extérieures qui se baladent partout en Afrique.
Oui, ça c'est vrai.
Donc
c'est
ça, c'est la preuve qu'on n'est pas indépendant.
Et qu'il n'y a pas d'indépendance.
Donc quelqu'un qui n'est pas capable de défendre ses frontières et qui ne va pas sa monnaie et qui ne peut pas avoir une politique qui va dans le sens des intérêts de son peuple n'est pas indépendant.
Bon, alors j'accueille, si vous voulez bien. Non, il ne veut pas.
la comparaison avec l'Europe, pour moi, elle est totalement fausse. L'Europe est plutôt en recul par rapport à leur indépendance. Mais aujourd'hui, l'Europe a connu son développement économique. L'Europe a connu son pic économique. C'est aujourd'hui qu'effectivement, qu'ils sont en train de s'enliser dans une récession. Mais
d'où les débats racistes que nous avons maintenant.
Voilà. Mais l'Europe a quand même plus la main sur son modèle économique que l'Afrique. Ouais. Ne serait-ce que le fait, par exemple, que le CFA soit adossé à l'euro. Je veux dire, aujourd'hui, la BCE, elle est capable d'ouvrir
un petit peu plus
la Banque Centrale Africaine, qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Elle est incapable de faire sans avoir l'aval de la banque centrale et la banque centrale elle-même
Monsieur
qui passe par le Trésor public
Monsieur
français.
Kazi, s'il vous plaît, accueillons Maître Hakim Chergui qui est avec nous. Bonjour Maître.
Bonjour à tous.
Vous avez vu, le débat est enflammé Maître.
Il est passionnant.
Bon bah c'est bien déjà. Maître Chergui, bienvenue à vous. Je rappelle que je vous avais reçu ici même dans le studio pour parler d'une affaire dont vous vous occupez, vous défendez un homme qui s'appelle Monsieur Zogo, qui a, vous allez nous le rappeler d'ailleurs, avec vos termes, nous rappeler exactement de quoi il s'agit concernant cette affaire. Au Cameroun, il a dénoncé la corruption et ça lui a valé la casse prison, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait. Il a fait plus que ça. Alors, je retrace un petit peu la genèse de l'affaire. Moi, je suis membre d'un collectif d'avocats spécialisé en droit international et en droit de l'homme. Et nous défendons depuis maintenant 2 ans un ressortissant camerounais qui s'appelle effectivement Achille Zogo Ndela, qui vient d'être condamné par une juridiction d'exception qui s'appelle le tribunal criminel spécial, qui est un peu le bras armé judiciaire de l'opération Épervier, que je pense beaucoup de gens connaissent.
Hein. Ah oui, oui.
C'est la grande opération politique de lutte contre la corruption et le blanchiment au Cameroun, qui a été une réponse des autorités camerounaises aux injonctions du FMI. Et du coup, il a été condamné à l'issue d'un procès spectacle, d'un simulacre de procès, à l'issue duquel je ne pourrais même pas plaider, étant obligé de retirer ma robe en audience, ne pouvant pas plaider devant des juges qui refusent d'appliquer la loi. Et c'est un homme qui a été justement avant cela arrêté depuis 2011 et il a été détenu pendant 8 ans jusqu'à ce que l'ONU, le comité des droits de l'homme de l'ONU, condamne très officiellement le Cameroun pour détention arbitraire. Donc il a été condamné pour détention arbitraire, plutôt le Cameroun a été condamné pour détention arbitraire et puis paradoxalement ils vont le juger. Ils vont le juger alors qu'il est toujours embastillé et que tous ses droits fondamentaux sont niés. Et ils vont lui refuser le droit d'être confronté à ses témoins. Ils vont faire entendre les témoins de l'accusation bizarrement le jour où il est malade, alors qu'il est en prison, et qu'ils savent très bien qu'il est malade. Et ils vont faire semblant de ne pas savoir où il est. Voilà à peu près, je pourrais vous raconter pendant 2 heures les atteintes et les coups bas des juges du TCS. Donc aujourd'hui... il y a évidemment le dossier judiciaire, mais il y a aussi dans ce dossier, et c'est à mon avis ce qui lui donne un écho particulier par rapport à votre débat aujourd'hui, c'est que le procès Zogo Ndela, l'histoire même de Zogo Ndela, au-delà des faits, au-delà de la personnalité exceptionnelle de cet homme, qui vraiment a le charisme d'un Mandela, quelqu'un qui depuis 8 ou 9 ans en prison, à la prison de Konangi, hein, la célèbre, celle qui repose sur une surface de 3000 mètres carrés et dans laquelle sont entassées 5000 personnes. C'est la prison dans laquelle on va simplement donner 700 repas pour les 5000 prisonniers. Voilà à peu près le contexte. On a un homme qui se bat, va apprendre le code de procédure pénale et le code pénal du Cameroun par cœur, véritablement par cœur, en 8 ans. Va monter une stratégie de défense, va envoyer des recours partout depuis sa prison, tout en parallèle, en se battant pour que la situation et la lutte contre la corruption au Cameroun s'améliore. Et il le fait pourquoi? Parce que lui, en fait, dans ce dossier, pourquoi il est en prison? Parce qu'il sert de cache-misère, c'est un écran de fumée. Parce que l'affaire de corruption qu'on lui reproche, il aurait soi-disant détourné il y a 30 ans ou 20 ans des bateaux qui sont la propriété de l'État et que l'État a récupéré très officiellement, et qui ont été partagés entre les caciques du pouvoir, les ambassadeurs, et on a tous les documents et toutes les preuves hein, qui le prouvent.
Alors, Maître Chergui, vous nous entendez, messieurs, quand même, c'est hallucinant cette affaire.
Ouais.
Hallucinant.
Oui, complètement.
Hein, dans une prison, il nous dit il y a 5000 personnes d'entassées, 700 repas de servis. Il a appris le code camerounais par cœur. La comparaison allant jusqu'à dire que c'est presque le nouveau Mandela, quoi qu'il en soit, la corruption est aussi un mal qui a frappé ce continent africain. Alors c'est vrai que la corruption c'est à l'échelle mondiale, on est d'accord là tous, hein. Mais en particulier en Afrique quand même, elle est présente cette corruption, Rudy Casbi.
C'est 50 milliards.
Ouais, c'est pas rien quand même.
Et c'était l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki qui avait sorti le rapport. 50 milliards sortent de manière, sont utilisés de manière illégale sur le continent. Maintenant, la corruption, celle qui malheureusement est la plus visible, il y a deux cas. Vous avez celle par exemple d'une entreprise française qui était très connue dans le domaine énergétique, pour pas la citer, Areva.
Ouais.
D'ailleurs, demandez à Monsieur Issoufou, président du Niger, ce qu'il en pense bien d'Areva. Parce que je crois que après qu'Areva ait beaucoup profité des bas-fonds nigériens, je crois que à la fin, ça s'était légèrement un peu inversé, à tel point qu'Areva a failli couler. Donc ça, c'est de un. Et de deux, par contre, vous avez la corruption de la vie de tous les jours aussi. Je veux dire, quand quelqu'un prend traverse une frontière terrestre dans un pays africain...
Ah ouais. Ah, vous payez.
Vous payez. Ah ouais. Et vous le savez. Et vous savez, vous avez beau être 50 dans le car, je vais vous dire que même si vous êtes deux noirs, mais plus ou moins à l'attitude plus ou moins peut-être européanisée, je vais vous dire que dans les 50,
ça vous coûte.
Si vous n'avez pas le double passeport, vous savez très bien que c'est pour vous le billet.
Ouais, ça dépend. Après, il y a le. Enfin, moi, en tout cas, pour faire plusieurs voyages entre le Sénégal et le Mali, moi, je sais qu'en tant qu'Européen, ils ne me touchaient pas. On ne me demandait pas de l'argent. De temps en temps, vite fait, mais j'ai toujours su esquiver. Par contre, quand on venait au Sénégal et qu'on était malien, mais on pouvait payer 4 fois, 5 fois dans la route, hein, sur la route.
Ah oui.
Normal, hein.
D'accord.
Ils se font plumer. Mais pour revenir.
Ouais, mais ça, c'est pas de la corruption, ça, c'est.
Ah, si, c'est de la corruption.
C'est les flics. C'est la police qui vous.
Non, je veux dire, le peuple, il est victime de ça.
Oui, voilà.
Voilà, on
mais
est d'accord.
Mais c'est la police, c'est la corruption, c'est pas la corruption de la population. C'est la corruption,
du bas niveau, ce que plus haut.
De l'État, de ses différentes
administrations. D'accord, d'accord. On s'entend bien sûr.
Mais pour revenir au cas du monsieur au Cameroun, déjà, je compatis vraiment pour sa situation. Je ne la connaissais pas. Je connaissais pas, en fait, le cas de ce monsieur. Et ce serait intéressant que je puisse en faire le relais au sein de mon réseau, d'une part. Donc, je vais me mettre en quête d'informations. Et d'autre part, moi, la question que j'ai envie de poser à son avocat, c'est
Maître Cherki,
qu'est-ce que nous pouvons faire d'ici pour contribuer à la libération de cet homme et au triomphe, au fait, de sa cause, parce que la cause qu'il défend est la cause de tous ici. Et qu'est-ce que nous pouvons faire aussi auprès des autorités françaises, parce que nous savons très bien qu'un coup de pression des autorités françaises auprès du président du Cameroun peut beaucoup aider à changer la situation.
Monsieur Chargé,
on peut contribuer.
Oui, bien sûr. Alors, je vous remercie pour la philanthropie que je ressens dans votre question. Et je vais y répondre de manière, je pense, un peu large, et vous m'en excuserez. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le combat judiciaire. Évidemment, le combat judiciaire, dans ce contexte-là, c'est pas un combat non plus qui est dénué de tout caractère politique. Et en ce sens, le fait de connaître le dossier, de propager le dossier, d'en parler, d'éveiller les consciences et effectivement de frapper aux bonnes portes, c'est toujours utile. C'est extrêmement utile. Donc, et évidemment, vous avez mis le doigt sur un sujet qui est très opportun, puisque aujourd'hui, en ce qui concerne les relations extérieures de la France et la volonté déguisée de la France de revenir et de réactiver ses réseaux France-Afrique, s'étant rendu compte que la Chine et que la Russie récemment lui avaient donné le pion, et la France a envoyé, comme on le sait, le ministre des Affaires étrangères au Cameroun le 23 et 24 octobre dernier, qui a visité et qui a même fait un chèque, hein, de 45 millions d'euros, hein, 30 milliards de francs CFA, pour le développement de Maroua, de la région nord, qui est régulièrement l'objet des attaques de Boko Haram. Sauf que, si moi je comprends bien le réchauffement des relations diplomatiques entre Paul Biya et le régime de Biya et la France, qui se manifeste notamment par ce chèque, et je dois mettre aussi, je dois interpeller mes concitoyens sur le fait que les 30 milliards de francs CFA, dans un pays qui n'a pas été capable d'organiser la CAN et de construire 4 stades de foot, c'est 30 milliards de francs CFA qui vont aller dans les poches des corrompus. Et qu'au final, chacun va prendre son milliard, et à la fin, pour le petit peuple, il restera rien. C'est comme ça que ça va se passer, on le sait. Donc à défaut d'avoir mis en place des mécanismes de garantie, de surveillance, de supervision, on sait très bien que là, on vient de faire un chèque qui va rien faire d'autre que financer et mettre un peu d'essence dans le moteur de la corruption, si vous me permettez l'image. Et ce sont ces pratiques-là qu'il faut dénoncer ici, depuis Paris, depuis la France, en disant, attendez, ce que vous êtes en train de faire, c'est totalement honteux. Et le dossier Zogo-Andela, pourquoi il est intéressant sur le sujet de la corruption? Bah parce que là encore, il vient souligner comment ça se passe en pratique. Le TCS, c'est une institution, le tribunal criminel spécial, c'est une institution qui a été posée pour lutter contre la corruption. Eh ben, le dévoiement des institutions de lutte contre la corruption permet la permanence des pratiques de corruption. C'est-à-dire qu'en fait, en organisant des procès fictifs, des procès dans lesquels on va inventer des concepts, on va violer la loi, des procès qui sont des simulacres, qui sont pires que les procès de Moscou, eh ben, on ne fait rien d'autre que de permettre à la corruption de continuer à les racines du sol africain.
Alors maître, si vous permettez, vous allez continuer de répondre à cette question, et très intéressant, surtout nous dire comment peut-on faire, parce que c'est la question aussi posée par Ousmane Timara, comment peut-on faire pour relayer, pour médiatiser, alors c'est ce qu'on essaye de faire ici à notre petit niveau sur France Maghreb 2 aujourd'hui, pour aider Monsieur Zongo Ndola au Cameroun, et surtout, je crois qu'il y a des nouvelles en matière de justice, nouvelles méthodes ou nouvel axe. Vous allez nous dire cela dans un instant pour la suite de cette édition spéciale avec nos invités ici en plateau et maître Hakim Charghi au téléphone sur France Maghreb 2.
France Maghreb 2.
Le Grand Forum avec nos amis aujourd'hui ici présents, Ousmane Timara avec Rudy Kazi et Rudy Kasbi, journaliste qui est avec nous et au téléphone pour évoquer cette affaire au Cameroun de cet homme en prison depuis combien maintenant, maître Charghi? 8 ans maintenant?
Oui, 8 ans passés.
8 ans passés hein, pour avoir dénoncé la corruption. Il s'y retrouve. Alors la question qui a été posée juste avant la pause par Ousmane Timara, comment peut-on faire pour relayer cette affaire, pour la faire connaître à un plus grand large, et surtout nous donner aussi vos différentes actions, parce que là je crois que vous entrevoyez des actions un petit peu inédites d'ailleurs en matière d'attaque, j'ai envie de dire, pour votre client, maître Charghi.
Oui, alors tout à fait, on s'apprête à déposer et à saisir 3 juridictions, 3 instances internationales. Dans la semaine, on va saisir le comité des droits de l'homme de l'ONU, hein, qui a déjà condamné le Cameroun pour détention arbitraire. On va saisir la commission africaine des droits de l'homme pour tout ce qui relève de l'atteinte au droit à la santé. Et on va saisir le groupe de travail de l'ONU sur les détentions arbitraires. L'idée est vraiment que le dossier de Zogo Ndela ne soit pas tué, ne soit pas relayé dans un tiroir, mais que bien au contraire, on puisse parler de tout ça, parce qu'il est tellement symptomatique des dysfonctionnements des administrations, des corruptions et de la perfidie d'un système qui est en place en Afrique et qui est un système qui empêche tout développement en Afrique, qu'il faut absolument que les gens parlent de ce dossier, parlent de cette affaire-là. Alors, pour répondre à la question de votre intervenant, que je remercie encore une fois, les gens qui sont intéressés par le dossier d'Achille ont mis en place une association qui s'appelle Advocacy for Human Cause. Je laisserai les coordonnées évidemment de l'association à Christophe, et les gens qui sont intéressés, je pense, peuvent rentrer en attache avec Christophe et lui demander les coordonnées. Mais je pense qu'effectivement il a été nécessaire à un moment de fédérer de toutes les synergies, tous les gens qui veulent s'intéresser au dossier, apprendre ce que c'est, comprendre ce qui se passe, et puis aussi participer, parce qu'on n'a pas gagné. Achille est toujours en prison, le système corrompu qu'il y a mis est toujours en place, et il convient de se réunir, de mettre en place des synergies, des choses en mouvement, parce que l'immobilisme, en fait, il n'y aura pas de convergence dans l'immobilisme, donc il faut se lever et puis il faut se mettre en mouvement.
Alors maître, une petite question, je crois, de Rudy Kasbi.
Oui,
Oui, après Rudy, il n'y a pas de problème.
Kasbi ou Kasbi?
Kasbi, arrêtez de m'embrouiller.
Oui maître, alors ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que finalement, est-ce que sa situation donc carcérale n'est-elle pas en fait moins en fait le problème en fait que les solutions en fait qu'il peut apporter dans sa situation? Je m'explique au travers de cette question, c'est tout simplement en fait le fait de profiter donc de la situation qu'il connaît aujourd'hui pour transformer en fait ce combat carcéral, ce combat juridique, en un combat pour la liberté d'expression, en un combat pour je dirais en fait la réappropriation de l'avenir donc des Africains de façon générale, qui sont le peuple, parce que je pense en tout cas dans sa position il n'est pas le pouvoir en place, donc le peuple. et donc questionner la communauté internationale sur la capacité effectivement à pouvoir se réapproprier son avenir. Est-ce que après bon vous faites un travail effectivement de recours et il faut épuiser tous les recours nécessaires jusqu'à monter à la Cour de justice internationale et vous faites votre travail, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que l'intérêt au travers de ça n'est pas aussi d'aller chercher quelque part l'impact et la puissance médiatique pour essayer aussi de remonter, de faire remonter ce combat, parce que il y a des miracles qui peuvent se produire, mais et j'espère qu'il peut sortir de prison, mais j'ai l'impression que l'enjeu se situe plutôt au niveau de l'impact en fait de ce combat contre la corruption, et qui dit corruption dit aussi malgérance des États africains, parce que tout à l'heure vous le disiez, ça va être compliqué hein, vu le chèque qui a été signé à Paul Biya de convaincre au travers des instances juridiques camerounaises de le faire sortir quoi.
Maître Chargui.
Alors, j'ai eu l'opportunité d'aller à Kodengui plusieurs fois rencontrer mon client. À Kodengui, à la prison centrale, vous pouvez former un gouvernement. J'ai rencontré l'ancien Premier ministre, j'ai rencontré des anciens ministres, j'ai rencontré des recteurs d'université. La différence entre ces personnes-là, je les ai trouvées apathiques. C'est-à-dire qu'elles sont aussi, pour la plupart, victimes d'injustices flagrantes, mais aucune n'a la prétention ou même la volonté de contester, de se plaindre, parce que ce sont des enfants du sérail et qu'ils espèrent non pas l'innocence, mais la grâce de Paul Biya, puisque c'est le père pour eux. Alors qu'Achille Zogo, c'est pas un politique. Lui, son combat, il en fait un combat politique. Il se bat pas pour lui, parce que lui, vraiment, vous savez ce qu'il m'a dit la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit deux choses qui m'ont profondément ému, qui puis après m'ont animé mon combat à ses côtés. Il m'a dit, premièrement, j'ai connu la fortune avant, aujourd'hui j'ai rien, je dors avec des rats, mais je remercie Dieu. Je lui dis pourquoi ? Et il me répond, bah parce que Dieu m'a laissé ma clairvoyance, première chose. La deuxième chose, il m'a dit, vous savez, si je sors demain, je suis un businessman, je pourrais faire de l'argent sans aucun problème. Je réactiverai mes réseaux et je ferai des entreprises et je gagnerai de l'argent, mais je le ferai pas. Il dit, ce que je ferais, c'est que je me battrais pour la justice. Je lui dis pourquoi ? Il me dit parce que j'ai connu l'injustice.
Ouais,
et effectivement, son combat, lui, il le place sur ce plan-là. C'est-à-dire que, par exemple, l'ONU a dit, on peut vous prendre en charge, on peut vous amener des repas. Il a dit non, moi je prends pas de repas si tous les prisonniers en prennent pas. Et tous les soirs, il partage son repas avec 5 prisonniers dans sa cellule, et tous les soirs, les prisonniers changent. Et il apprend à lire et à écrire aux prisonniers, parce qu'il faut savoir qu'à Kodengui, vous avez des enfants de 9 ans, jusqu'à il y a femmes, hommes, enfants, et il va donner des cours à des enfants. Des cours de business, de marketing, des choses qu'il maîtrise, il va enseigner.
Rudy Casby, dernière question, Rudy Casby.
D'abord, je trouve que ce qu'il fait, notamment les derniers propos où vous dites qu'il donne des cours dans la prison, qu'il partage son repas, etc., c'est la preuve même qu'il a un esprit... même s'il veut pas faire du business, qu'il a quand même un esprit entreprenant, pour moi son peuple et par-delà même son pays, au-delà même de sa situation personnelle. Mais j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous, maître. La bonne nouvelle, c'est que effectivement, si il y a une volonté de la part, en plus au Cameroun, un pays où il y a une forte expression du patriotisme, où les Camerounais sont capables, par leurs organisations, de porter la voix au-delà même de leur pays. En revanche, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous, c'est que si vous comptez sur une diaspora ici pour faire quand même votre dossier, vous êtes mal barré. Parce que, je peux vous le dire de bout à moi, on fait beaucoup de politique chez nous. Vous voyez, on fait beaucoup de politique. Mais il n'y a pas grand-chose qui en sort. C'est-à-dire que une diaspora, à l'exception peut-être du Cameroun, et encore j'en suis pas sûr, n'arrive pas à construire de réelles actions concrètes pour le développement du continent africain et pour faire exploiter et ressortir toutes ces questions, y compris sociétales et sociales et politiques que vous venez d'évoquer. C'est vrai que bien souvent, j'entendais avant la pub, on disait oui, mais Jean-Yves Le Drian, les 45 millions, Paul Biya, je vais vous dire quelque chose de très très simple. Il n'y a pas d'organisation viable à ce jour capable de porter la voix, en tout cas en France, de votre client. Parce que les diasporas elles-mêmes sont totalement éparses et désorganisées, ne parlent pas la même langue. On essaie de faire des manifestations d'orbazoniens à la place de la République. ça prend à peine. Vous essayez même de construire des ce que vous voulez, des écoles, des fonds d'investissement, ce que vous voulez, porter des causes politiques comme la vôtre. Ça ne prend pas parce que la diaspora ici, en tout cas, n'est pas organisée. Peut-être certainement aux États-Unis, ce sera encore autre chose, parce que là, on a le droit de revendiquer une appartenance à une culture, mais dans la diaspora francophone des pays notamment d'Afrique centrale et particulièrement même les, que ce soit le Congo ou les Congo ou le Cameroun, on se retrouve dans cette situation-là, monsieur. Donc je suis vraiment désolé de vous le dire. Vous venez de passer 10 minutes sur cette belle antenne France Maghreb 2. Nous vous en remercions, Christophe également, surtout lui, puisque c'est lui qui présente. Mais la diaspora ici est dans l'incapacité.
Alors, est-ce que Maître Chargui compte sur la
physique, mentale, est-ce que vous voulez de s'organiser?
Oui, mais est-ce que Maître Chargui compte sur la diaspora d'abord?
Non, non, non. Moi, je vais vous dire. Premièrement, le combat que l'on mène sur ce dossier-là, c'est un combat qui n'est pas clivant. C'est un combat universaliste. Donc, je ne cherche pas le soutien d'une communauté ou d'une autre. Moi, je m'adresse à tous les hommes épris de justice, et quelle que soit leur origine, leur couleur de peau, leur religion, leur croyance, peu importe, l'idée, c'est qu'il y a une injustice qui, pour moi, ne me semble pas contestable. Et elle interroge la conscience de chaque être humain. Qu'est-ce que je fais? C'est quelque chose de contemporain. Ça se passe maintenant. C'est pas quelque chose qui, c'est pas de l'histoire passée. Donc ça interroge la contemporanéité de l'événement. Deuxièmement, et je pense que je terminerai là-dessus, il y a un très beau proverbe africain, un proverbe berbère, qui dit le plus grand des orages commence toujours par une goutte. Donc moi, je m'intéresse pas à l'orage, je m'intéresse aux gouttes. Voilà,
je pense que c'est très positif de votre part, et moi j'aimerais vous encourager dans ce combat.
Ouais. On vous encourage.
On vous encourage tous, mais c'est simplement la méthode.
Oui.
Bah, en tout cas, vous aurez ma goutte.
Voilà.
La mienne aussi.
Et vous l'avez tout un saut. Notre goutte. Cher maître, en tout cas, s'il y a du nouveau dans ces dossiers, comme vous avez pu le faire ici, comme vous l'avez fait aujourd'hui, eh bien demain, la porte vous est ouverte, cher maître Chargui, et vous saluerez votre client pour nous, évidemment, en lui souhaitant un immense courage de notre part, et bravo pour
et
son combat.
Et de garder l'espérance.
De garder l'espoir et l'espérance.
Que Dieu le soutienne et l'aide.
Merci, maître Chargui.
Merci à vous, monsieur.
Merci beaucoup.
À bientôt. Bon, on va être un peu plus pragmatique, quoique on va essayer de parler de monnaie. Il paraît que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre, comme disait le célèbre
Nègre Marron.
Absolument. Ah oui. Oui, absolument. Que tu connais bien d'ailleurs, mon cher ami Rudy.
Ouais, c'est mon coup.
Alors, la monnaie, pour parler du franc CFA. Ah, cette monnaie. Faut-il en finir avec le franc CFA? C'est la question qu'on se pose, messieurs. Alors, il paraît qu'on a trouvé la parade. On a créé une autre monnaie qui va démarrer, je crois, l'année prochaine. Hein, c'est ça. Qui a un nom d'ailleurs particulier, Ousmane. Hein. Echo, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui. Echo, j'avais organisé.
Non, mais clairement, je vous pose la question clairement. Est-ce qu'on se fout de la gueule des Africains?
À mon avis, oui.
Ça
si on regarde, parce que le projet de créer une monnaie africaine, ouest-africaine, date de très très longtemps, depuis les années 70. Et ça a été mis de côté, sous le tapis, et c'est sorti là récemment. C'est-à-dire dans les années 2000, à un moment donné, une décision a été prise, et puis ensuite, ils ont mis ça de côté parce qu'ils n'avaient pas mis en place ce qu'il fallait pour se faire. Et là, tout d'un coup, patatras, on se dit bon les gars, il faudrait s'y mettre. Et ça, c'est en raison des mobilisations des sociétés civiles en France, un peu partout dans le monde et notamment aussi en Afrique, où ils trouvent étrange que ces régions-là soient les seules au monde encore à utiliser la monnaie issue de la colonisation. Et beaucoup de gens contestent. Moi, j'ai organisé une conférence débat là-dessus dans le cadre de mon cabinet Stratégie 13-11. Et l'une des choses qui m'est apparue, c'est le hiatus et la distance qu'il y a entre les décideurs publics et les économistes d'une part, et la société civile et la population. La population et la société civile veulent en finir. Ils n'ont pas forcément la stratégie pour. Mais ils disent non, par principe,
d'artistes,
il faut,
qui avait d'ailleurs
enlevé ça.
C'était uni.
Donc
pour
la question. Je termine juste. Le problème, c'est que maintenant, ils ont décidé de changer. Le nom seulement, parce que c'est pas tant le y en a qui s'accrochent au mot français CFA. C'est pas tant le terme qu'il faut voir, c'est la réalité qu'il y a derrière.
C'est la monnaie en tant que telle.
C'est ce qu'elle nous permet. Moi, si le franc CFA permettait à ce que on s'industrialise et que on investisse dans la jeunesse, je dirais banco, y a pas de souci. Le mot franc n'est pas un gros mot. Non, c'est ce qu'il y a derrière. C'est le fait qu'on n'a pas la main mise sur la monnaie.
Et on ne peut pas l'utiliser pour investir dans nos besoins.
On change les hommes, mais pas le système.
On change les mots, mais pas le fond.
Voilà, c'est ça. Hein, Rudy Casby, on est d'accord avec ça?
Oui, non, mais ça, il y a pas de doute là-dessus. Et d'ailleurs, le premier qui avait soulevé la question, se souvient, c'est Emmanuel Macron lui-même, lorsqu'il était en déplacement à Ouagadougou, qui a dit qu'il n'y avait pas de tabou. Si on pouvait en sortir, il fallait en sortir. Donc la question n'est plus...
Pas de tabou, mais ça va... ça la peut-être question... pas aller jusqu'au bout pour Macron, quand même, parce qu'il a des intérêts, lui. Hein.
Non, mais c'est facile de le dire.
La question... Oui. Oui, voilà. Mais la question, je pense, n'est plus de savoir si oui ou non faut quitter le franc CFA. Je pense que 99% des économistes de ce monde savent que faut le quitter. Mais non.
Sauf les économistes africains. En tout cas, ceux qui travaillent dans les banques centrales, eux,
ils n'ont pas ce discours-là.
C'est un dogme.
Ils n'ont pas ce discours-là. Ils disent, mais c'est pourquoi faire. Ils disent pas non.
Non, mais ils peuvent pas dire non comme ça.
Ils disent pas non.
Mais ce qu'ils disent, c'est que
ils vont mettre quoi en place.
Non, mais ce qu'ils nous disent,
c'est ça.
L'écho.
Non, mais c'est différent.
Et en plus de ça, ils vantent le système vertueux en fait du franc CFA, qui est soi-disant une monnaie fixe, donc adossée à l'euro et donc qui bénéficie donc de la fixation de l'euro. Quand l'euro monte, le franc CFA monte, ça bénéficie à tout le monde. Mais c'est un prétexte en fait, un écran de fumée pour voir conserver la situation telle qu'elle est. L'autre problème
pour
aussi.
Pour que chacun comprenne. Si je vous dis demain, vous avez une maison, vous êtes bien chez vous. Il y a un livre qui s'appelle Qui a piqué mon fromage. On vous dit, mais il est bien mon fromage. Oui, il est bien. Mais tu sais que si tu quittes ce fromage pour en avoir un autre, il peut être potentiellement meilleur. Mais non, mais j'ai mon fromage, il est là.
Oui, c'est un peu comme tu divorces et tu te remaries.
Exactement. Et je pense que par la paresse intellectuelle, simplement la paresse, je parle pas de la corruption. La paresse intellectuelle de certains dirigeants, notamment, et qui ont fini par endormir la propre société civile, pour certains d'entre eux, font qu'on ne bouge pas. Alors que, avec un peu de courage, et un peu de côté téméraire, pas forcément un truc politique énorme, on peut arriver à la création de cette monnaie. Regardez par exemple...
Mais faut-il une monnaie commune? Et de quelle manière doit-elle
s'organiser? Mais tous les États africains sont d'accord avec cette question.
Oui, mais attendons.
En fait, alors, par rapport, à la monnaie commune, déjà... Oui. Déjà en fait ça nécessite donc je pense déjà de prendre en compte spécifiquement les moyens économiques en fait des pays, parce que il va y avoir en fait des disparités un petit peu trop dangereuses, un petit peu trop graves si effectivement on se retrouve en fait sur
c'est le souci qu'on a en Europe,
c'est exactement le souci qu'on a en Europe,
d'où en fait la
nécessité, exactement, d'où la nécessité par exemple déjà même au sortir du franc CFA, si c'est possible, en tout cas souhaitable, ça l'est, c'est déjà de travailler concrètement au développement économique de ces pays avant même de sortir du franc CFA. Je suis désolé, un développement économique est capable d'être possible, qui va être effectivement limité par la difficulté de pouvoir investir à l'étranger, de faire des exportations qui soient gagnantes vu effectivement le taux de change bas, évidemment, et puis en plus les investissements des capitaux dans le pays effectivement qui vont se faire avec des facilités même de départ, parce que la facilité aussi du taux de change du franc CFA, notamment pour les pays de la zone euro, c'est de reprendre leurs capitaux quand ils veulent aussi. Donc c'est évident que compte tenu de cet aspect-là, ça va être difficile de développer. Mais l'important c'est déjà de le faire et en même temps d'envisager la sortie du franc CFA. Mais une fois qu'on en sort, faut avant d'en sortir penser à ce qu'on va faire en dehors de ce franc CFA. Donc la question déjà va se poser au niveau de tous les États africains, notamment de la zone francophone, de leur volonté d'en sortir ou pas. Ensuite, de la volonté ou pas politique et économique de pouvoir au moins mettre en place les investissements nécessaires dans des industries qui vont permettre de développer le pays, et aussi d'accompagner tout ça d'une politique en matière d'éducation qui va sur le temps, parce que il faut aussi compter sur le temps. Vous savez, l'éducation, elle permet de former les hommes de demain. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'universités en Afrique pour pouvoir former du personnel qualifié. Si vous prenez l'exemple, par exemple, du Brésil, c'est exactement ce que le Brésil a fait. Il y a encore 20 ans, il faisait partie des pays qui étaient en voie de développement. Aujourd'hui, le Brésil est en train de faire peur aux pays européens.
Et pas qu'au niveau des universités, d'ailleurs.
Hein. Exactement.
Avec
Bolsonaro.
Parce qu'ils ont développé, déjà, d'une part, des des industries fortes, en plus en rendant même certaines économies à travers le monde dépendantes des infrastructures que eux ils avaient, parce que ils ont réussi en fait à
Attendez.
Oui, mais je termine parce qu'il trépine. Vous allez avoir votre temps de parole. On est tous là pour parler.
Mais non, parce que j'entends des grands débats intellectuels. Vous savez, moi, je suis un entrepreneur.
Oui, mais moi, je suis pas un intellectuel. Moi, je suis un homme de terrain.
Moi, j'en suis bien, les amis.
Et qui a une expérience. Moi, je suis un homme de terrain qui a une expérience de l'Afrique. Pardonnez-moi, mais moi, en 97, j'étais en Afrique. J'étais au Congo quand il y a eu un coup d'État. Ma famille exerçait des positions politiques. Donc, moi, la réalité du franc CFA, je la connais. Je l'ai vécu dans ma famille. Sur trois générations, on a été particulièrement meurtri par ces réalités.
D'autant que c'est pas très sympa de dire ce que des mots. Voilà.
Donc respectez s'il vous plaît, respectez quand même la parole des gens. Moi, quand je parle, je fais pas de grandes phrases grandiloquentes avec beaucoup d'émotivité. Je parle avec
continue ton discours.
Je parle avec pragmatisme. Mais je disais en tout cas que le modèle brésilien est un modèle intéressant pour l'Afrique. Donc c'est toutes ces questions là qu'il faut questionner. Le retour du développement des infrastructures, le questionnement effectivement de la sortie du franc CFA, mais aussi en perspective de quelque chose qui pourrait remplacer de façon concrète.
Ousmane Timéra,
oui.
La question toute simple aujourd'hui, effectivement, il est envisageable de faire cette monnaie, mais est-ce que ces pays africains peuvent être réellement indépendants de leur économie demain?
En fait,
au vu de ce que l'on voit aujourd'hui, hein, concrètement sur le terrain, parce qu'elle n'a pas l'air d'être indépendante.
En fait, une monnaie, c'est quoi?
Oui.
Une monnaie, c'est un moyen d'échange que décide une collectivité donnée afin de pouvoir échanger des biens et d'en créer.
Oui.
C'est d'abord ça. C'est une institution, en fait. Avant, on utilisait des coris, des bouts de ceci, des bouts de cela, et bon, bah, à un moment donné, on a utilisé des bouts de papier et autres. Et donc, ceux qui fondent une monnaie, c'est la reconnaissance que la population a en la valeur qu'elle donne en cette monnaie, d'une part, et ça doit être une création de la société. Ça doit pas être quelque chose qui vient de l'extérieur.
Ouais.
Et c'est en lien aussi avec la capacité de produire des biens au niveau local, et ensuite, de pouvoir les vendre, de pouvoir les développer et ensuite de les vendre à l'extérieur. Si ça existe pas, c'est du vent aussi.
Ouais.
Et en même temps, ça permet aussi de créer en fait un cadre, une frontière, un espace dans lequel cette monnaie est en circulation et qu'on reconnaît, et donc de protéger nos frontières. Si ces trois conditions ne sont pas là, on n'a pas de souveraineté et donc on n'a pas de monnaie. Et donc, est-ce que nous pouvons parler d'une monnaie indépendante en Afrique de l'Ouest, dans des petits pays comme le Sénégal, le Mali et autres? Je pense que non. Il faut quelque chose de beaucoup plus large, et le système de la CEDEAO, je pense, va dans le bon sens. Deuxièmement, est-ce que la Banque centrale peut être indépendante sur le plan démocratique des décisions politiques?
Réponse.
Pour la plupart des économistes, il faut une indépendance de la Banque centrale vis-à-vis du politique. Je pense que c'est une erreur. Et les politiques aussi, cette monnaie ne peut fonctionner s'il n'y a pas de véritable démocratie. Nos États, façon 5e République dévoyée, ne sont pas de véritables démocraties. Il faut donc refonder nos États, refonder nos institutions, avoir des constituants qui pensent la manière dont elle va fabriquer sa monnaie. Si ça n'existe pas, nous n'aurons affaire qu'à en fait, on fait que remplacer une chaussette par une autre chaussette.
Mmh. Okay. Oui. Rudy Casby. Dernier mot là-dessus, parce que le temps passe vite, les gars.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Ousmane là-dessus. Ça va être un instrument des sociétés civiles avant toute chose, en lien aussi avec
Sociétés tout court.
Des sociétés tout court, en lien civil aussi, en lien avec leur propre histoire. Simplement, voilà, comme je l'ai dit à mon cher Rudy Casby, c'est que moi je suis un entrepreneur. Et quand on est dans un entrepreneur, on a un environnement, on essaie de le construire, et on essaie de se construire avec cet environnement, et quitte à avoir de l'influence dessus. Ce qui est très important, c'est de savoir comment on peut changer les choses. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'acteurs, que ce soit sur la blockchain, encore un autre sujet, histoire de crypto-monnaie, beaucoup de gens ont essayé, et essayent toujours de créer des solutions. Je pense qu'à mon avis, nous sommes dans une ère particulièrement, et c'est particulièrement vrai pour le continent africain, ce qui n'est pas forcément le cas pour l'instant pour l'Europe, et en ce sens, le continent africain a beaucoup d'avance là-dessus. C'est la société civile, y compris sur la monnaie, puisque c'est elle qui a ramené la question du français par la monnaie. C'est elle qui entreprend, c'est elle qui crée. Et je crois, et c'est elle qui milite pour l'égalité des droits aussi, parce qu'on peut en parler, l'égalité aux universités. Moi, par exemple, effectivement, vous avez soulevé le problème des investissements. Le français CFA empêche les investissements. Mais moi, ce que je vois aussi beaucoup, c'est beaucoup d'hommes d'affaires maintenant africains qui, dans la plus grande discrétion, malgré ces barrières de français CFA, commencent à créer des fonds d'investissement pour essayer de financer beaucoup de projets d'entreprise. Oui, le franc CFA est un obstacle, mais en tant qu'entrepreneur, nous devons trouver toutes des solutions. Et avoir un esprit entrepreneur, c'est aussi avoir la capacité à se projeter avec cet environnement, quitte à changer après, parce que
là,
si on ne peut pas changer maintenant,
là, il faut changer. Rudy, Rudy,
mais moi, je n'ai pas trop parlé, là, vous avez pris la parole tous les deux.
Juste un moment, juste un moment, tu sais, c'est comme le foot, quoi. Je te fasse la vol tout à l'heure, j'arrive.
Mets-moi une belle passe décisive à ce moment-là.
Mais juste rapidement, moi j'ai un problème avec le discours de l'entreprise, l'entrepreneur. C'est un peu l'idéologie. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'entreprise ne peut pas exister sans un environnement qui lui est favorable. Et l'environnement favorable n'est possible que s'il y a des politiques publiques. Or les politiques de mais l'entreprise en France
n'est pas.
Déjà je suis plus ici.
Arrêtez d'entreprendre.
Non non, c'est pas la question n'est pas là. C'est que tu prends le système de la France. Laisse-moi finir. Laisse-moi terminer. C'est qu'on a tué nos États et nos capacités politiques et collectives d'investir et de donner un environnement sain pour l'entrepreneuriat. La France ne serait pas la championne du monde des investissements en termes d'entreprise s'il n'y avait pas une infrastructure et un investissement de plus de 100 ans de l'État-providence. Nous, on a cassé ça chez nous. Donc, l'entreprise n'est rien du tout. Le secteur privé n'est rien du tout s'il n'y a pas un secteur public fort.
Rudy Casi, pour terminer là-dessus, voilà. Il est 49.
Je te fais la passe.
Voilà. Allez. Juste donc pour terminer, la réalité c'est qu'il faut être réaliste sur la question. Comme ça a été dit à l'instant, c'est vraiment en fait la volonté politique en fait qui est capable de commander le développement économique et donc l'environnement qui permettra donc à ces entreprises d'exister. Moi, je connais pas mal d'entrepreneurs, je connais pas mal même des personnes qui ont monté des structures qui aident au développement des entreprises en Afrique. Mais force est de constater que ces entreprises sont créées dans un environnement qui est déjà un environnement de privilégiés, c'est-à-dire en fait des personnes qui ont des incohérences entre guillemets avec le pouvoir, etc. Pourquoi ? Parce que il manque de structure juridique pour pouvoir permettre à l'accessibilité et la possibilité donc de pouvoir créer des sociétés. Quand vous par exemple vous voulez créer une société et que ça et que pour pouvoir recevoir un titre de création de société, ça vous prend 5 ans, 10 ans, 15 ans en fonction de certains états en Afrique, on peut pas développer de la valeur économique avec des systèmes juridiques qui sont inexistants et ça c'est le politique qui est capable de
poursuivre encore pendant beaucoup de minutes. Évidemment,
n'aurait pas le dernier mot, monsieur Rudy Casbi.
Et il l'aura peut-être, je sais pas, dans un instant, on va parler un peu de ce qui se passe ici. Vous savez, ce pays qui nous réunit, pardon, tous les quatre. Ce climat nauséabond qui est en train de grandir. France, Ousmane trépille d'impatience de venir de nous donner un petit peu son ressenti.
Ah, en Afrique, j'ai appris avec passion.
Bon, et bien à tout de suite. D'autant plus qu'il y a une page de pub, donc il va falloir être passion. À tout de suite.
France Maghreb 2.
Déjà, je tenais à vous remercier tous les trois pour ce débat riche, parce que les opinions divergent.
Merci beaucoup.
Évidemment, c'est important.
Merci beaucoup.
D'ailleurs, et c'est tant mieux d'ailleurs que ce soit divergent,
merci
qu'il y ait une richesse de débat, messieurs.
Merci
juste
à toi
une petite question, une question ludique, cher Rudy Casbi. Combien de langues en Afrique ?
2000.
52 pays, 2000 langues.
Non, 54 États.
54 États, 2000 langues. Combien de monnaie en tout ?
Ah, je sais pas. Alors,
dirham,
il va en avoir beaucoup.
Dirham, dinar, oulia, le franc CFA, il y a aussi la lire égyptienne, il y a aussi le BR, le Kenyan shillings, le Kenyan l'Ugandan shillings, Kwacha zambien, Kwacha malawien.
Ah ouais, quand même.
On a aussi le peso aussi au Mozambique, on a aussi le rand en Afrique du Sud, on a la roupie mauricienne, on a on doit avoir moins une bonne cinquantaine. Deux francs CFA, hein, attention.
Deux
francs CFA, francs guinéens aussi, francs rwandais.
Francs des Comores.
J'étais là-bas
d'ailleurs. Francs des Comores.
Ouais.
On doit être trentaine de monnaies, ouais.
Il nous reste 4 minutes, messieurs. Je sais en tout cas que vous êtes animés aussi par ce pays qu'est la France, dans lequel nous vivons, pour certains d'entre nous. D'autres qui ont fait le choix de s'en écarter.
Non, des allers-retours. Je m'écarterai jamais de la France.
Ouais, quoi qu'il en soit,
on
vit dans une ambiance.
Pays, là,
non, moi je sois bien.
Il nous reste 4 minutes, messieurs. Autant vous le dire tout de suite.
Je vais le sauver.
Ousmane Timéra, tu vis beaucoup en tout cas en Afrique, entre le Sénégal et le Mali. Tu reviens de temps en temps en France, comme c'est le cas en ce moment. De quel œil regardes-tu tout ce qui se passe en ce moment en France? Et ce climat qui est en train de devenir très indigeste.
Je vois l'étrange défaite de la France.
qui recommence et qui veut être joué de plein pied sur les musulmans. Je vois une défaite de la pensée et je vois surtout des boucs émissaires qui servent à justifier la sape de l'État-providence et de détourner les regards et les révoltes que cela va susciter vers ceux dont les richesses à l'extérieur devront être pillées. Il faut un ennemi intérieur pour pouvoir justifier les guerres extérieures. Et dans les deux cas, ce sont les musulmans qui vont goûter.
Les guerres en Afrique principalement.
Enfin, en Afrique, dans le monde musulman, parce que c'est le monde musulman qui est à feu et à sang en ce moment.
Afrique, c'est Mali, Centrafrique.
Et il faut justifier ces guerres en diabolisant l'islam avec des approximations extraordinaires. Et la question de la laïcité, la question idéologique qui est menée aujourd'hui, même sur la question du terrorisme, doit être frontalement abordée par les intellectuels de tous bords. C'est bon, on arrête de jouer. On attaque frontalement l'idéologie qui est en place sur le plan néolibéral, sur le plan de ce que j'appelle le charlisme et sur le plan de ce que j'appelle le laïcisme, et qu'on se donne les moyens politiques et économiques de la résistance, parce que ce qu'ils ont fait aux juifs, c'est ce qu'ils veulent refaire aujourd'hui avec nous. Et c'est pas que les musulmans qui sont visés, hein, c'est les immigrés de manière générale.
Oui.
Donc organisons-nous, les amis.
Comment on fait?
On voit la chose venir. Bah, comme il n'y a que 4 minutes, je ne vais pas trop parler, mais on voit la chose venir, donc au moins on est prévenu.
Comment on fait, Rudy Casbi, alors? Parce que vous posez la question, vous avez peut-être la réponse.
Premier plan d'action, déjà, c'est commencer par arrêter de s'intégrer. Parce que quand on commence à s'intégrer...
Bah, on est déjà intégré, nous.
Voilà.
Donc la question même d'intégration...
Mais parce que chez nous, c'est encore un discours qui...
Ouais, le discours,
on apprend nos enfants à s'intégrer.
C'est un discours colonial.
Oui, mais voilà. Donc déjà, on va arrêter de s'intégrer. Déjà, c'est un. Déjà, de deux, on va commencer par revendiquer tous dans nos entités, métissés ou pas, ce que nous sommes. Déjà, ça c'est de trop. Ça c'est de deux. De trois, on va commencer, vous voyez, dès l'éducation, dès le bas âge, déjà. Je prends à la racine. Et de trois, aux États-Unis, on le fait très bien, ça choque strictement personne. Association des Sénégalais d'Amérique, vous avez le drapeau américain, le drapeau du Sénégal. À partir du moment où les diasporas seront organisées comme des ambassadeurs naturels de leur communauté, tous les pouvoirs publics auront intérêt à rentrer directement en contact avec elles pour régler le problème.
Je suis pas d'accord avec ces stratégies.
À la racine.
Parce qu'aux États-Unis, ça a pas marché.
Ça a très très bien marché à New York.
Bah non, mon ami, ça a pas marché.
Ah ben si, ça
a... On n'a pas le temps de débattre, messieurs.
Mais en tout cas, les Noirs se font canarder.
On n'a pas le temps de débattre.
Il y a d'autres problèmes. Mais déjà, donner une identité claire.
On fait déjà partie de la communauté nationale, au fait.
Non, ça, c'est une...
Mais si.
Oui,
c'est les autres qui veulent pas.
Non.
Si les autres réagissent de la sorte, c'est parce que on s'intègre. Qu'on commence à, on commence à prendre.
On s'intègre. Maintenant, moi, je me m'intègre.
Non, moi, je te parle au niveau de l'élite. Non, je te parle au niveau de l'élite. Si l'élite est autant énervée, c'est qu'elle sait qu'elle va perdre sa place. C'est aussi ça.
On s'intègre. Non.
Non.
Rudy Casbi.
Je parle pas d'intégration. On s'intègre pas dans un pays dans lequel on est né, on a grandi.
Déjà,
on prend la place qui est la nôtre.
Déjà.
Mais on ne s'auto-exclut pas en disant qu'on va revendiquer nos communautés particulières.
Non. On affirme ce qu'on est.
Le propos, il est pas là.
On affirme ce qu'on est.
Est-ce que je peux en placer une? Bien sûr. Rudy Casbi, je te laisse le dernier mot.
Non, déjà,
rapide, par contre, tu me fais pas
Mais les autres, ils ont toujours plus de temps.
Rudy Casbi, toi, tu reviens toutes les semaines. Eux, ils sont là jamais.
Il fait son Calimero, le gars. Il prend 10 minutes pour faire son Calimero.
Il y a un temps de parole qui est donné et je vais pas attendre la semaine prochaine pour dire ce que j'ai à dire.
T'es en train de perdre 5 secondes en disant ça là.
T'as perdu 10 secondes.
Mais c'est 10 secondes que j'aurais pu avoir si vous aviez pas eu les
Continue encore, continue encore.
Arrêtez de pleurnicher, Rudy Casbi.
Très bien. Bref, très bien. En tout cas, la réalité est là. C'est qu'aujourd'hui, on a une population qui est d'origine immigrée, mais qui est française. Premièrement, ça c'est la première chose qu'il faut dire. Mais c'est une population qui se sent pas totalement intégrée du fait effectivement des vieux relents de la colonisation qui ont eu avec le temps, effectivement, de créer en fait des Français entièrement à part ou à part entière, vous prenez dans le sens que vous voulez. C'est pas pour autant que ces Français qui sont en France ne sont pas Français. On va pas en fait empêcher à ces personnes d'être françaises dès lors qu'elles le sont de par leur culture. Je suis désolé. Lorsqu'on est né en France, on est culturellement quand même un peu plus français qu'africain. C'est pas pour autant qu'il faut se désolidariser de son de son africanité.
Il faut conquérir le pouvoir.
Il faut conquérir le pouvoir
économique et politique.
Et il faut, je termine. Et il faut effectivement être à l'aise sur ses deux jambes.
Moi, je suis d'origine congolaise. Je suis pas né au Congo, mais je me sens congolais et je suis né en France et je suis français et ça m'empêche pas de vous de regarder en France et de voir en France en fait un avenir certain pour notre jeunesse. Ça, c'est la question de la citoyenneté qu'il faut questionner et il faut pas attendre que cette citoyenneté soit donnée. Il faut la prendre et il faut conquérir effectivement les places nécessaires où il y a la, où, où l'expression de cette citoyenneté permet d'avoir au travers de la politique des représentations qui créent l'identification nécessaire à l'émergence d'une conscience auprès de cette jeunesse, de notre jeunesse, qui va réaliser que son avenir s'inscrit en France, bien premièrement, mais aussi dans ces pays, en Afrique notamment, qui jouissent effectivement d'un développement économique dont ils doivent aussi être les acteurs.
Merci pour cette belle chouchouka, hein, bon appétit à tous. En tout cas, les idées foisonnent.
Faut se battre.
Oui, faut se battre,
les
absolument.
Amis, les temps
sinon, on va toujours se plaindre. Hein.
Les
on
temps
va toujours
vont... se plaindre. Non, c'est même pas une question
on
de
plaindre. On donne pas trop les pleurnicheuses quand même.
Les temps sont durs et ça va être encore terrible. Je ne le souhaite pas. Mais ce que les jeunes, ces gens-là préparent, c'est une guerre civile. Ah, on sait ce qui est en train d'arriver. À nous aujourd'hui, de nous organiser. Pour cela, n'arrive pas. Exactement. Pour le bonheur du pays.
Mais maintenant, merci à tous les trois. Rudy Casby, merci d'être venu dans notre émission aujourd'hui, dans cette spéciale Afrique. Ousmane Timéra, on te revoit bientôt, j'espère.
Oui, moi, de toute façon, je reviens assez souvent ici.
Oui, très bien. Bon.
Tous les mois, tous les deux mois.
Bon, mon Rudy Casby revient vite, hein. Revient la semaine prochaine.
Voilà.
Hein. T'inquiète pas, je serai.
Donc, t'auras ton temps de parole.
Voilà, il l'aura.
Hein, Rudy Casby.
T'as vu, à la fin, ils ont encore gratté des points et après, on
va rester tranquille. On va partir après.
On fait du foot de rue, frère.
Moi, je commence, une phrase et je la termine et je laisse les gens dire ce qu'ils ont à dire. J'ai pas besoin d'avoir le dernier mot.
Ici, c'est le débat. Ici, on parle. S'échange.
Foot de rue, foot de rue.
On se coupe la parole s'il le faut, Rudy.
Mais moi, ça me pose pas de problème.
Bon, bah alors, voilà.
Ce qui me pose problème, c'est pas d'aller au bout de ce que j'ai envie de dire.
Alors, tu penses comment je t'ai dribblé là? C'était bon ou pas?
Moi, je suis on m'appelait Patrick Vieira sur les terrains, donc tu dribbles pas.
D'accord. Bon, merci messieurs.
On me dribble pas, moi.
Dans un autre registre, dans un instant, on lui également coupe pas la parole parce que c'est difficile, c'est Medjed. Dans un instant, sur France Maghreb 2. On est de retour demain, sur France Maghreb 2, évidemment, pour un autre univers et notamment un témoignage exclusif d'un policier en colère demain. Pour l'heure, le journal de 18h02. Avec Sophie Tarence, bonsoir.
Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal avec au sommaire ce soir. Patrick Balkany devra patienter. Sa seconde demande de remise en liberté a été mise en délibéré au 13 novembre. Décision de la Cour d'appel de Paris. On sera sur place dès le début de cette édition. Des quotas d'immigrés professionnels, c'est l'une des mesures qui devrait être annoncée demain par Édouard Philippe. Le Premier ministre va dévoiler le plan du gouvernement en matière d'immigration. Et puis le foot, les ambitions retrouvées de Lyon en Ligue des Champions. L'OL reçoit le Benfica ce soir. Vous entendrez le coach lyonnais, Rudy Garcia. Patrick Balkany va-t-il sortir de prison? Sa deuxième demande de mise en liberté était examinée cet après-midi par la Cour d'appel de Paris. La décision sera finalement rendue le 13 novembre prochain. Une demande liée à sa condamnation de 5 ans de prison pour blanchiment de fraude fiscale. L'élu de 71 ans, incarcéré depuis le 13 septembre, a déjà vu sa première demande de mise en liberté liée à sa condamnation pour fraude fiscale acceptée. Et Boris Kharlamov, vous êtes au Palais de justice de Paris et vous avez assisté à cette nouvelle audience. Audience qui s'est déroulée en présence de Patrick Balkany.
Oui, Patrick Balkany est apparu dans le box fatigué, amaigri, l'air un peu hagard. « Je souffre beaucoup », dit-il face au magistrat. Quelques minutes plus tard, c'est avec défaitisme qu'il reprend la parole pour évoquer la caution de 500 000 euros qu'il devra payer s'il sort de prison. 500 000 euros à trouver, c'est très difficile, nous n'avons plus en rang, ni en France, ni à l'étranger, explique Patrick Balkany face au tribunal. Son avocat Éric Dupond-Moretti demande alors une décision rapide et fustige le risque de fuite qui a une nouvelle fois été avancé par l'avocat général. C'est un fantasme, son passeport est périmé, il va faire quoi? Se mettre en cavale comme Xavier Dupont de Ligonnès, ironise Éric Dupond-Moretti. La décision sera rendue dans une semaine, mercredi prochain à 9h.
Boris Kharlamov, depuis la cour d'appel de Paris, François Bayrou lui est convoqué par la justice. Le patron du Modem devra répondre au juge d'instruction du pôle financier, ce sera le 10 septembre prochain. Il pourrait être mis en examen dans l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif d'assistant parlementaire au sein du parti centriste. La fermeté de Christophe Castaner à Chanteloup-les-Vignes, le ministre de l'Intérieur était sur place aujourd'hui. Il a promis de reconquérir chaque territoire pour les rendre à la République. Déclaration faite 3 jours après les violences qui ont touché la ville des Yvelines. Des policiers agressés, un chapiteau incendié. Et dans cette affaire, 2 hommes, dont 1 mineur, ont été mis en examen et écroués. Le grand oral d'Édouard Philippe demain, après un débat à l'Assemblée puis au Sénat, le Premier ministre va dévoiler les mesures du gouvernement, une 20aine, pour durcir la législation autour de l'immigration. Et parmi les pistes évoquées, un délai de carence de 3 mois pour les demandeurs d'asile qui voudraient accéder à la sécurité sociale. Autre annonce attendue, l'instauration de quotas d'immigrés professionnels. Objectif, faciliter les embauches dans des secteurs qui peinent à recruter. À Bordeaux, l'association SOS Solidarité mène une expérimentation avec une dizaine de réfugiés. Écoutez Alain Régnier, délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés.
Les besoins d'emploi sont tels que d'une manière nouvelle, les chefs d'entreprise regardent les populations réfugiées comme étant un vivier potentiel. Et que ce soit les grandes ou les petites entreprises, elles sont intéressées par l'accès à l'emploi. Les entreprises joueront un rôle considérable d'évolution aussi des regards portés par la société française et les autres sociétés développées, parce qu'on aura des besoins de main-d'œuvre qui feront que nous avons besoin d'ouvrir des métiers à des personnes qui ne sont pas des nationaux.
Et des propos recueillis par notre correspondant à Bordeaux, Alain Baudron. C'était il y a un an, jour pour jour à Marseille, le 5 novembre 2018. Deux immeubles s'effondraient rue d'Aubagne dans le quartier populaire de Noailles. Terrible catastrophe et bilan très lourd, 8 morts. 8 minutes de silence ont d'ailleurs été observées ce matin pour rendre hommage aux victimes. Et depuis le drame, rien n'a changé, déplorent les associations. Le foot est coup d'envoi ce soir de la 4e journée de la Ligue des Champions. Match à la vie et à la mort pour Lille, qui en cas de défaite à Valence devra tirer un trait sur ses ambitions européennes. Lui en revanche peut se rapprocher des 8e de finale en cas de victoire sur Benfica. Après un début de saison très laborieux, l'OL, désormais entraîné par Rudy Garcia, va mieux, même si l'édifice semble peut-être encore un peu fragile.
Je dirais pas fragile, mais j'ai employé moi-même le mot de convalescent. Effectivement, on est une équipe convalescente, on est une équipe qui devra prouver sur la durée qu'elle est capable de remonter dans le haut du classement du championnat là où on veut être et qu'elle est capable de se qualifier pour les 8e de finale de Champions League. On va tout faire pour gagner ce match parce qu'on est très motivé pour le faire. Et après, la seule chose que je puisse dire, c'est que tous les matchs de Champions League sont difficiles. Pas que pour nous, pour nos adversaires aussi. Ce sont que des équipes qui méritent d'être dans cette compétition. Donc ce sont toutes des bonnes équipes. Et ce qui est sûr, c'est que nous, il faudra qu'on soit à 100% mentalement, physiquement, pour l'emporter.
Lyon-Benfica, c'est ce soir à 21h. Enfin, un mot de littérature. Après le Goncourt hier, le prix féminin a été attribué aujourd'hui à Sylvain Prudhomme, récompensé pour son roman Par les routes, publié chez Gallimard. Voilà pour l'actualité. Très bonne soirée à tous.
France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.